Vous êtes sur RTL.
Jusqu'à 9h30. Bonjour Yves.
Quand j'écoute Louis, Julien, j'ai envie de remettre une cagoule comme à l'école quand on était petit.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Un coupe-vent, un caouet, une cagoule, bref. Qu'est-ce que vous voulez? Louis, il n'a jamais de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, Louis?
Rien, c'est l'hiver, donc
c'est un bon argument. Ça m'étonne pas. Merci Julien, merci à toute l'équipe de nos petits matins et bonjour à tous. Il a pris son hélicoptère, il est retourné à son golf. Donald Trump n'est plus président des États-Unis. On retient un ouf de soulagement et l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche signifie-t-elle l'entrée d'un ami de la France et de l'Europe à la tête des États-Unis? Réponse à 7h40 avec l'invité d'RTL. Alba Ventura reçoit ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. L'actualité reste néanmoins marquée par le coronavirus. Les stations de sport d'hiver ne vont pas rouvrir en février et nos clubs sportifs, notamment amateurs, font grise mine. Nous retrouverons notre brigade à 7h15 et une heure plus tard, à 8h15, Sophie Orange fera, elle, le point sur l'avancée de la pandémie, la crainte des fameux variants et la menace d'une troisième vague. Notre confrère Christophe Barbier s'insurge, lui, contre ce qu'il a appelé les tyrannies de l'épidémie. Le livre est paru hier aux éditions Fayard. Il s'en explique ce matin à 8h20 sur RTL. Vous avez envie de sourire? Eh bien, les grosses têtes seront avec nous à 7h25 et Laurent Gérard à 9h15. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Une brochette de stars et un feu d'artifice cette nuit pour saluer l'entrée à la Maison Blanche de Joe Biden.
Le nouveau président américain, soucieux manifestement de rompre le plus vite possible avec son prédécesseur. Numéro vert saturé, stock insuffisant, le casse-tête de la vaccination pousse certains à tenter leur chance directement dans les centres et parfois ça marche. Reportage à suivre. Un rapport sexuel avec un mineur de moins de 13 ans peut-il être consenti? Actuellement, la loi ne l'interdit pas formellement. Le Sénat veut en faire un crime. Et puis, l'Olympique de Marseille au plus mal. Nouvelle défaite hier soir. Une seule victoire en 7 matchs. La colère gronde au Vélodrome.
La politique avec Olivier Bost.
Et pour 2022, ils sont nombreux parmi les candidats potentiels à vouloir faire comme Macron en 2017.
Rendez-vous dès la fin du journal.
RTL Matin.
L'Amérique s'est donc endormie la nuit dernière avec un nouveau président. Joe Biden a pris ses quartiers à la Maison Blanche avec son épouse Jill, désormais première dame, au terme d'une cérémonie historique et inédite sans le public habituel pour cause de restrictions sanitaires, ce qui n'a pas empêché Washington de fêter comme il se doit ce changement à la tête du pays. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Brice Dugénie. Bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Vous l'avez suivi cette journée particulière, Brice, et elle vient de se clôturé par un show dont seuls les Américains ont le secret.
Oui, un grand spectacle télévisé en direct du mémorial Lincoln pour célébrer l'unité et ouvrir une nouvelle page américaine. Alors entre deux chansons du boss, Bruce Springsteen,
Good evening, America,
ou de Justin Timberlake qui chante Les jours heureux à venir, Tom Hanks accueille le président Joe Biden.
The president of the United States, Joseph R. Biden Jr.
Hello. All the participants of tonight's event.
Et la vice-présidente Kamala Harris.
Good evening. It is my honor to be here.
Et les anciens Obama.
Well, good evening, America.
Bush.
America is a generous country with people with great hearts.
Et Clinton.
I'm glad you're there. Good luck. God bless you.
Puis les hommes politiques et l'Amérique de la culture rendent hommage à ces anonymes livreurs, professeurs, éboueurs, infirmiers et se réjouissent, sans le citer, de la fin de l'ère Trump. La soirée se termine avec Katy Perry. Et cette image du président Biden et de la première dame dansant dans un salon de la Maison Blanche avant de regarder du balcon le feu d'artifice gigantesque tiré en leur honneur.
Oh yeah! Good night, America!
Voilà pour cette belle mise en onde et le résumé de cette soirée signée Brice Dugénie. Avant de faire la fête, le nouveau président a pris soin, sans perdre une minute, de signer plusieurs décrets revenant notamment sur des décisions prises par Donald Trump. Les États-Unis réintègrent ainsi les accords de Paris sur le climat. Joe Biden a également suspendu la construction du mur à la frontière mexicaine. Et puis notez que la ville de Washington est en ce moment en train de retirer tous les blocs de béton installés dans la capitale pour des raisons de sécurité.
Près de 700 000, c'est le nombre de Français ayant déjà reçu la première injection du vaccin anti-Covid.
À ce rythme, le chiffre du million promis d'ici la fin du mois devrait largement être atteint. Oui. Malgré quelques couacs, reports de rendez-vous, voire même parfois fermeture de centres, faute de stock suffisant, ce qui inquiète le président du SAMU, Urgence de France, qui redoute, lui, des émeutes dans les jours à venir si la situation ne s'améliore pas. Faute de place, certains ont décidé de se rendre carrément dans les centres en espérant pouvoir se faire directement vacciner, avec parfois Une bonne surprise, Hortense Crépin.
Oui, pourtant, dans ce centre étendu sur tout un gymnase, le calendrier est plein jusqu'à fin février.
Je vous demande de remplir chacun.
Mais depuis lundi, plusieurs patients se présentent sans rendez-vous.
Des personnes âgées qui ont du mal à avoir accès à Internet.
Angélique est en charge de l'accueil.
Qui ne comprennent pas forcément non plus comment s'inscrire sur Doctolib et qui, du coup, viennent chercher des réponses.
Je vais vous piquer.
Des problèmes pour se connecter, c'est ce qu'a rencontré Juliette. Elle accompagne son mari, lui, à un rendez-vous et elle a réussi à recevoir une injection en même temps.
Ils ont accepté très, très gentiment, très compréhensivement. Vous ne voyez pas passer encore toute une journée ou deux ou trois jours à essayer d'avoir un rendez-vous.
Un peu plus loin dans son bureau, Catherine Rigal a les yeux rivés sur son portable. L'infirmière coordinatrice du centre calcule le nombre de doses restantes.
216 injections. Ces derniers jours, comme vous voyez, quand on a un peu de place et de temps, je les prenais. Mais je ne vais pas pouvoir faire ça tout le temps. Une fois mes doses, moi, pour la semaine. Hein.
Du cas par cas, donc, mardi, 75 personnes ont reçu une injection. L'agenda en prévoyait 58.
Après, le problème de prendre les gens comme ça qui viennent, c'est qu'ils aient vraiment un deuxième rendez-vous pour la deuxième injection.
Contrairement à l'une de ses amies quelques heures plus tôt, Huguette, elle, va devoir attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous.
Elle m'a dit, dépêche-toi, vas-y, en début d'après-midi, on va peut-être te vacciner aussi. Bon, on ne peut pas me vacciner, je me suis simplement inscrite.
Comme Huguette, plusieurs repartent bredouille, mais le centre n'a pour le moment pas eu de colère à gérer. Aucun incident déclaré. Ces candidats à la vaccination vont être rappelés quand de nouveaux créneaux seront ouverts.
Un reportage signé Hortense Crépin. Plus de 26 000 nouveaux cas et 310 décès en 24 heures en France. La courbe ne baisse pas, elle n'explose pas non plus, et c'est sans doute ce qui, pour le moment, incite le gouvernement à ne pas renforcer les restrictions en vigueur. Elles ne seront pas allégées non plus. Le couvre-feu est maintenu partout à 18h. Dans ce contexte, aucune surprise, les stations de ski ne seront pas autorisées à rouvrir leur remontée mécanique le mois prochain. La décision a été actée hier en Conseil de défense. On s'oriente vers une saison blanche, a concédé Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Il y a pourtant dans le monde des situations encore plus difficiles que la nôtre. C'est le cas au Brésil où le variant très contagieux apparu il y a plusieurs semaines fait des ravages. Les contaminations explosent et les morts se comptent par milliers chaque semaine. L'insouciance du président Jair Bolsonaro est largement pointée du doigt et elle suscite, Sarah Cozzolino, vous êtes notre correspondante à Rio, elle suscite la colère des Brésiliens.
Oui, sur la plage de Flamengo à Rio, Geisa Garibaldi porte un masque avec le slogan « Dehors Bolsonaro ». Selon elle, en minimisant la pandémie, le président est devenu un vrai danger pour son pays.
Il est négationniste, irresponsable, vicieux, mal intentionné. On n'a même plus d'adjectifs pour parler de ce mec.
Si Ulysses Lima se tient à distance des autres groupes de personnes sur la plage, il dénonce les fêtes qui ont eu lieu la veille.
Comme on n'a pas de gouvernement qui montre que c'est important de suivre les règles, c'est même naturel que ça arrive, puisque le gouvernement a fait peu de cas des mesures sanitaires.
Jair Bolsonaro n'a cessé de remettre en cause le vaccin. Pour Rosane Pereira, il est entièrement coupable du retard qu'a pris le Brésil dans la vaccination.
Nous avons un gouvernement qui nie la science. Notre ministre de la Santé est un militaire qui n'est ni médecin ni formé en santé. Il se dit spécialiste en logistique, mais la logistique, c'est un échec total.
À Manaus, endeuillé par le coronavirus, ce sont les célébrités grâce à des dons et le Venezuela avec de l'oxygène livré par camion qui sont venus au secours de la ville.
Alors Sarah Gozzolino au Brésil pour RTL.
RTL, il est 7h07. La question du consentement sexuel des mineurs sera débattue tout à l'heure au Sénat. Et dans ce contexte, l'enjeu est immense.
Il s'agit d'une proposition de loi qui vise à considérer tout rapport avec un mineur de moins de 13 ans comme un crime. Aujourd'hui, le code pénal reste flou dans ce domaine. La volonté des défenseurs de ce texte, Thomas Proutot, c'est qu'il n'y ait tout simplement plus de débat possible.
En effet, la loi doit être claire et inflexible pour la sénatrice UDI Yannick Billon, qui a proposé le texte bien avant l'affaire Kouchner. Toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur de moins de 13 ans est un crime, sans discussion possible devant les juges sur un éventuel consentement ou sur le comportement de l'enfant.
Parce qu'en dessous de 13 ans, le jeune n'a pas la capacité de discernement, il n'a pas la capacité à consentir. Il y a l'adulte qui représente l'autorité et il y a l'enfant qui respecte souvent l'autorité. Cette limite incontestable, elle doit être posée. Elle existe dans de nombreux pays, Royaume-Uni, en Espagne. Il n'y a pas de raison qu'en France, on ne soit pas en capacité de mieux protéger ces jeunes mineurs.
La question du seuil de consentement fait débat depuis des mois. Marlène Schiappa avait échoué à imposer 15 ans en 2018. Cette fois, le texte de l'UDI a recueilli l'unanimité en commission. Il pourrait donc être voté au Sénat cet après-midi. Ce sera ensuite au gouvernement de décider s'il soutient cette proposition devant l'Assemblée ou s'il propose son propre texte pour mieux protéger les mineurs.
Thomas Proutot, invité hier soir sur RTL à réagir au débat actuel autour de l'inceste et alors que certains réclament que ce crime devienne imprescriptible, Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, s'est dit fermement opposé à une telle mesure qui ne doit être réservée pour lui qu'aux crimes contre l'humanité. L'inceste est un outrage, mais ne peut être comparé à Auschwitz, a expliqué Badinter.
RTL, il est 7h09. Le football, l'Olympique de Marseille en pleine crise après une nouvelle défaite hier soir face à Lens.
1-0 en 7 matchs. Les Marseillais n'auront remporté qu'une seule victoire. Les supporters sont vent debout et face à la prestation médiocre de ces joueurs, l'entraîneur désabusé Hugo Hamelin.
Oui, un entraîneur de l'OM désarmé hier soir, prêt à rendre son tablier après la prestation affligeante de ses joueurs.
Je suis disponible totalement pour la direction. J'ai mis ma place à leur disposition la semaine dernière. Ça, c'est pas un problème.
Le problème, c'était plutôt le manque d'envie pour les Marseillais. Une seule frappe cadrée, Lens aurait mérité un score plus large. C'est un joker de grillé. L'OM reste à 8 points du podium et s'attaque à un calendrier ardu.
Monaco, Rennes, Paris Saint-Germain, Lyon. Je pense pas que c'est mort, mais oui, c'est un gros ralentissement par rapport à ce qu'on avait.
Pas de quoi faire changer d'avis les supporters qui avaient accroché des banderoles déjà hostiles à leur équipe dans les travées du Vélodrome hier soir.
Hugo Hamelin. Et puis en handball, la France a battu l'Algérie 29-26. Un pas supplémentaire vers les quarts de finale du mondial. Prochain match, ce sera demain face à l'Islande.
Et nous terminons ce journal avec des courses qui ont lieu à Vincennes, Dominique.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 9, le 14, le 13, le 3, le 8 et le 4. La dernière minute, c'est le 13, Golden Visé.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h10. La politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et alors, pour 2022, tout le monde veut faire comme Emmanuel Macron, mais alors évidemment en 2017.
Oui, Emmanuel Macron est un exemple. Enfin, sa conquête du pouvoir semble inspirer la stratégie de futurs candidats à l'élection présidentielle. Une conquête hors des partis traditionnels et en tentant de brasser large politiquement. En fait, tenter de joindre les deux bouts de l'omelette pour en faire une fusée.
Ah, expliquez-nous tout ça.
Alors, le meilleur exemple, mais il n'est pas le seul, est Arnaud Montebourg. Il fait du miel et des glaces aujourd'hui et ses amis préparent le reste, c'est-à-dire sa candidature à la présidentielle. Leur idée, c'est de rassembler les souverainistes de gauche et de droite et d'aller au-delà, en tout cas bien au-delà du Parti Socialiste et de ses électeurs, qu'Arnaud Montebourg n'intéresse plus beaucoup. Si vous regardez ce que fait Anne Hidalgo, la maire de Paris, ses amis à elle ont créé Idées en commun, une plateforme pour la propulser, là aussi à la présidentielle et bien au-delà du PS. À droite, Xavier Bertrand n'est plus chez les Républicains. Lui, son credo, c'est de rassembler les gens de bonne volonté. Là encore, il s'agit d'élargir bien au-delà de sa famille politique d'origine.
Alors, pourquoi tout le monde a cette stratégie en ce moment ?
Alors, il y a sans doute une explication assez rigolote, d'ailleurs. C'est le journal Libération qui l'a raconté la semaine dernière. Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre et avocat, conseille tout le monde discrètement. Enfin, il discute. Il a vu des Républicains récemment, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy et Damien Abad. Il voit souvent Arnaud Montebourg et il échange très très souvent avec Yannick Jadot. Oui. À tous, Jean-Louis Borloo leur explique, comme le racontait Libé, qu'il faut aller au-delà des clivages habituels pour battre Emmanuel Macron. Mêlé de la droite, de la gauche, de l'écologie, du souverainisme et le retour du pacte républicain, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir Jean-Louis Borloo phosphorer de la sorte. Il avait été humilié en 2018, il faut le rappeler, par Emmanuel Macron, qui avait rejeté publiquement le plan banlieue qu'il lui avait demandé.
Bon, est-ce une bonne idée de copier ce qui a déjà été fait ?
Non, enfin, si nous jetons un regard rapide sur l'histoire des élections présidentielles de la Ve République, non, ce n'est pas une bonne idée. Jamais, au grand jamais, deux présidentielles qui se sont suivies ne se sont ressemblées. Ça n'est jamais la même histoire. La conquête du pouvoir n'est pas une répétition de la précédente campagne. Au contraire, même, ces derniers temps, les vainqueurs se sont plutôt construits sur l'antithèse, le contraire de leurs prédécesseurs. Nicolas Sarkozy, c'était la rupture avec Chirac. François Hollande, le président normal face à Sarkozy. Emmanuel Macron, lui, a fait toujours attention à faire l'exact contraire de Hollande. C'est pour ça que refaire du Macron, 5 ans plus tard, c'est-à-dire joindre la gauche et la droite après une petite trahison, c'est assez tentant, mais ce n'est pas le scénario le plus probable de 2022.
Merci beaucoup Olivier Bost, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Notre rendez-vous politique ce matin est de politique internationale puisque c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine qui répondra aux questions. question d'Alba Ventura. Il sera donc, je vous le rappelle, 7h40. Dans un instant, gros plan sur l'économie des stations de ski, alors que nous avons appris que les remontées mécaniques ne rouvriront pas avant le 1er février. Et nous ferons aussi un point sur l'impact de l'épidémie dans le sport amateur, autre secteur lui aussi en très grande souffrance. Bonne journée à tous sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cette fois-ci, c'est clair, les stations de ski ne rouvriront pas le 1er février. RTL vous révélait l'information d'ailleurs dès hier. Les vacances se feront donc sans remontée mécanique. Quel impact pour l'économie des stations? Nous allons faire le point avec notre brigade de l'actualité. Bonjour Christophe Ponzio.
Bonjour à tous.
L'impact de cette année blanche pour le secteur de la montagne est colossal. Quelles pertes sont vraiment à attendre?
Des pertes énormes. Les vacances d'hiver, c'est 40% du chiffre d'affaires de la saison. Saison qui a déjà été amputée des vacances de Noël. Ainsi, 10 milliards d'euros risquent de s'évaporer sous les effets du coronavirus, alors que le ski représente 5 à 10% de l'économie du tourisme en France. Imaginez que pour un département comme la Savoie, c'est à peu près la moitié de son économie qui est en jeu.
Au niveau des réservations en montagne, ça donne quoi ?
Alors hier encore, le taux d'occupation des 350 stations de ski pour le mois de février, ce n'était que 45%, bien moins qu'avant. Et ça, c'était avant, bien sûr, les annulations qui vont commencer, faute de réouverture, sans compter la clientèle étrangère qui ne peut pas venir sur les domaines français à cause de l'épidémie et qui représente un tiers des touristes.
Alors bien entendu, Christophe, derrière ces chiffres inquiétants, ce sont comme toujours des emplois qui sont en jeu. Combien sont menacés par cette non-réouverture des stations de sport d'hiver ?
Beaucoup. La montagne, ce sont 18 000 emplois directs qui dépendent des remontées mécaniques et de l'exploitation des pistes. 80% d'entre eux sont des saisonniers, principalement des locaux. Plus tous les emplois indirects, 120 000 en tout pour ce qui est des commerces, des hébergements, hôtels, résidences, clubs, mais aussi des écoles de ski et leurs 17 000 moniteurs en tenue rouge. Bref, les trois quarts de ces emplois menacés se situent dans les stations des Alpes du Nord, comme la Clusaz ou la Plagne.
Christophe, connaît-on les stations les plus impactées et y en a-t-il qui parviennent à tirer leur épingle du jeu ?
Je dirais plutôt limiter la casse. Mais oui, il y en a quelques-unes. Par exemple, Gérardmer dans les Vosges qui a affiché des taux d'occupation de ses hôtels proches de 100% entre Noël et le jour de l'an. En fait, les stations de moyenne montagne et la centaine de stations de ski nordique sans remontée mécanique, donc notamment dans les Vosges ou le Jura, s'en sortent mieux.
Y a-t-il au bout du compte un risque de faillite de ces entreprises ?
Oui, elles devraient perdre entre 50 et plus de 80% de leur chiffre d'affaires. C'est pour cela que de nouvelles aides pour le secteur des sports d'hiver vont être annoncées par le Premier ministre dans les prochains jours.
Merci beaucoup Christophe Ponzio. Et le virus qui n'en finit pas d'impacter nos vies et notamment nos pratiques sportives. Les clubs amateurs, les associations sont en souffrance financière pour une grande majorité d'entre eux, quel que soit le niveau, quelle que soit la discipline. Vous avez pu le constater Nicolas Georgerot, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes allé à la rencontre de trois clubs, de judo, de foot, de basket. Trois exemples, amateurs ou professionnels, et c'est dur de s'en sortir.
Et direction l'Aisne, tout d'abord.
Voilà le local technique.
Guise, 5000 habitants. Serge Moutier a 72 ans. Il dirige le club de judo local depuis une dizaine d'années.
Regardez les tapis que nous avons. On a 100 mètres carrés de tapis sur un parquet.
Personne sur les tatamis, tout est à l'arrêt. Le club est en sommeil et vit sur un fil.
Nous étions 215 licenciés. Aujourd'hui, nous sommes 70. C'est une grosse perte.
À raison de 15 euros de cotisation mensuelle par licencié, ce n'est pas grand-chose. Son budget de 20 000 euros annuel dévisse. Il lui reste 3 mois de trésorerie.
J'ai trouvé un sponsor qui vient de me donner 1200 euros. Ça fait du bien. Ça me permet de payer les charges du URSSAF. Je fais face comme je peux.
Sa réserve, ce sont les 2400 euros d'un loto organisé il y a un an. Serge Moutier attend la prochaine échéance.
Du fait qu'on n'a pas fait de judo pendant l'année 2020, est-ce que la municipalité va me donner la même subvention ? Je n'en sais rien. 5000 euros. Et ça, si je ne l'ai pas, ça va être très difficile. Ici, on a Vessière, Vessière dans son jus.
De temps en temps, le dirigeant bénévole parcourt les vides-greniers, les brocantes de la région pour dénicher des tapis et des kimonos d'occasion.
Dans le foot aussi, Nicolas, au niveau départemental, dans le département de l'Essonne, on fait face comme on peut.
Bonjour, bienvenue à Saint-Rhin.
Ce jour-là, c'est Kevin Pietervas, le président de ce club de 200 licenciés qui nous accueille. Au bord du terrain, aucun sponsor ne s'affiche. Un tiers de son budget de 36 000 euros s'est envolé.
Nous, ici, on se sent seul, complètement délaissé.
Au FC Saint-Rhin, comme dans beaucoup d'associations, c'est du 100% bénévole.
Il y a des aides qui sont mises en place par la fédération, par les districts et par les ligues, mais qui ne nous concernent pas, parce que ce sont des aides pour les clubs.
clubs qui ont des éducateurs diplômés et sous contrat. Nous, on n'en a pas, donc forcément, on n'a pas ces aides.
Le lien social s'est distendu.
Il y a eu un arrêt sur image dans la buvette. Voilà, les toiles d'araignée qui se mettent sur les coupes, etc. C'est vraiment triste.
Confinement, restrictions, le club de cette commune de 3000 habitants a perdu un quart de ses licenciés. Et le jeune dirigeant de 31 ans s'inquiète de potentielles demandes de remboursement des licences.
C'est une crainte que j'ai toujours, parce qu'on ne sait jamais. Certains licenciés qui se disent, bah, si on n'est pas remboursé, on change de club. Ça peut arriver aussi. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est la fermeture du club.
Allez, on accélère jusqu'au bout.
Alors, on vient d'entendre cette inquiétude dans les rangs des amateurs. Nicolas, c'est également présent dans le monde professionnel, dans les sports collectifs en salle, par exemple, comme le basket.
Oui, prenez Nanterre, 11e du championnat de France, qui perd à chaque match à huis clos.
Pour nous, c'est environ 100 000 euros.
Frédéric Donadieu est le manager des champions de France 2013. 4 600 000 euros de budget, en baisse de 13%.
Le plus anxiogène, on y est. Jusqu'au 31 décembre et encore avant, tous les accompagnements ont fait qu'on a survécu normalement. Chômage partiel, on a baissé la masse salariale de l'équipe professionnelle entre 15 et 20%. C'est considérable. Par contre, si demain, il n'y a pas de championnat et ou des matchs à huis clos, là, ça peut être critique.
Dans cette structure familiale, Jean Donadieu, président et patriarche, 63 ans de présence au club, apprécie les différents gestes.
Des membres du staff, eux-mêmes, ont proposé de baisser leur salaire. C'est quand même tout à l'honneur des gens qui l'ont fait. Ouais.
Les contributions de 80 entreprises, représentant la moitié du budget, sont pour l'instant sécurisées. Résultat, selon eux, de relations fidèles et solides.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot pour cet éclairage sur nos clubs sportifs qui souffrent eux aussi. Dans un instant sur RTL, Louis Baudin avec notre météo. Le vent va continuer de souffler aujourd'hui. Nous retrouverons aussi nos grosses têtes et la pépite d'Anthony Martin. A tout de suite.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, nous retrouvons avec grand plaisir Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avez-vous choisi pour nous aujourd'hui?
Alors pour démarrer, on va se mettre un petit Bob Dylan.
There must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth.
All Along the Watchtower, morceau assez sombre de 1967 qu'on trouve sur John Wesley Harding, le 8e album studio de Bob Dylan. Dylan l'a écrit dans sa ferme à la campagne près de Woodstock. Il se remettait d'un sale accident de moto. Il était resté enfermé plusieurs mois avec sa famille. Il était jeune papa. Pour passer le temps, il lisait l'Ancien Testament. Et cette convalescence était vite devenue un cauchemar. Bob Dylan a raconté dans son autobiographie le bruit des bottes de ses fans qui marchaient sur le toit de la maison en pleine nuit. Des tapeurs, des tordus qui venaient en pèlerinage, a-t-il écrit. Le monde était absurde, tout allait de travers. Et bien, il y a tout ça dans ce titre All Along the Watchtower, le long du Mirador. La chanson, sortie en 45 tours, était passée totalement inaperçue.
Oui.
Mais, un certain Jimi Hendrix est entré en scène. Il y a pile 53 ans, c'était un 21 janvier. Le 21 janvier 1968, Jimi Hendrix poussait la porte des studios olympiques au sud de Londres pour y enregistrer dans la journée sa reprise de ce titre de Bob Dylan. C'est lui qui en a fait un classique, c'est notre pépite du jour. All Along the Watchtower de Bob Dylan par Jimi Hendrix.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine. Plowman, dig my earth. Nobody up in his world. No reason to get it.
Voilà, pour un réveil électrique, c'est sympa. All Along the Watchtower par Jimi Hendrix. Sa reprise a été beaucoup plus diffusée que la version originale de Bob Dylan. On la trouve sur l'album Electric Ladyland. C'est un des morceaux que Bob Dylan, de son côté, et Jimi Hendrix du sien, ont le plus joué sur scène.
C'est le grand débat de spécialistes. Alors Eric Clapton ou Jimi Hendrix, ou Eric Clapton. Je choisis les deux.
Oui, voilà.
Vous aussi?
Oui, tout.
Merci Anthony, on se retrouve demain matin. Et puis à tout moment, en replay sur RTL.fr.
À demain.
Chaque après-midi de 15h30 à 18h, on retrouve avec bonheur nos grosses têtes. Avec un défi ce matin, comme Paul Elkarat, serez-vous capable de citer les 12 travaux d'Hercule?
Le lion de Némée, l'hydre de Lerne.
Ça, c'est le deuxième. Voilà. Ensuite, le lion, c'est le premier, effectivement.
Non, mais
ensuite, il y a les biches.
La biche de Sérigny. Ramener le sanglier des Rimantes, c'est quatrième. Voilà. Cinquième, les écuries d'Augias.
Il y a le taureau de Crète. Ah, il y a les oiseaux du lac Stymphale. Je l'ai dit dans le désordre. Il y a ramener les pommes d'or. Il y a
ramener le jardin des Hespérides.
Oui, c'est ça, c'est les pommes d'or. Et, oui.
Non, mais c'est monstrueux. Il n'est pas du tout. Il détruit la faune, quoi.
Il y a les écuries. Il y a ramener la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones.
Exact. Ça, c'est le neuvième travail d'Hercule.
Il y a un gros travail.
Non, c'est pas ça.
Descendre aux enfers.
Ouais, ramener Cerbère, c'est l'ultime travail.
Voilà, et puis il vous en manque un avec des juments mangeuses d'hommes.
Ah oui, Diomède, les juments de Diomède.
Bonne réponse totale. Alors là, il connaît les 12 travaux d'Hercule. Ça...
On peut m'apporter des crayons de couleur, moi je vais colorier, j'ai rien d'autre.
C'est plus facile avec les 12 travaux d'Astérix. Hein. Alors, dans le grand studio, Valérie Mérès, cet après-midi, Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Stéphane Plaza et Florian Gazan. Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Yves.
Bon, alors je ne sais plus comment il faut qualifier la météo.
Ah ben, on ventile. Hein. Bah, on disperse.
Allons-y.
Parce que c'est vrai qu'on a non pas une, mais deux perturbations aujourd'hui et les deux sont très actives. La première, c'est en ce moment. Là, elle se décale vers le nord-est après être passée sur l'île de France où elle a donné 100 km/h quand même. Hein, oui. Cette nuit, plus de 120 sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc en ce moment elle donne 80.
C'était ça toutes ces poubelles renversées que j'ai vues dans Paris.
Et voilà,
ça,
exactement. Oui, non, c'était pas par hasard. C'est parce qu'il y a eu du vent. Et ce vent qui maintenant affecte le nord-est à 80 km/h en ce moment du côté de Nancy avec beaucoup de pluie. Ça va être comme ça toute la matinée. Et une deuxième va arriver par l'Atlantique cet après-midi, tout aussi active. Donc des nuages, de la pluie et du vent. Plus de 100 km/h sur la façade atlantique cet après-midi. Puis ça va rentrer dans les terres. 80 km/h dans les terres en cours d'après-midi et soirée. Tout ça va circuler sur toute la France. Pas de jaloux. Il n'y a que près de la Méditerranée où on pourra espérer cet après-midi quelques éclaircies. Espérer, j'ai bien dit. Et puis côté température, en revanche, assez douceur. Hein. On aura 8 à 10 degrés près de la Manche, mais plus de 10 degrés dans les autres régions. 10 à 11 degrés dans la moitié nord et 11 à 15 degrés dans la moitié sud.
Alors la grande question, c'est est-ce que ce temps instable est stable? Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Est-ce qu'il va durer?
L'instabilité va rester stable, donc ça veut dire qu'on attend d'autres perturbations tout aussi actives d'ici la fin de semaine. Une autre demain avec beaucoup de vent dans la moitié nord. Samedi, c'est plutôt dans la moitié sud. Et dimanche, vous le confirme, on aura de la neige jusqu'en pleine dans beaucoup de régions, dès la nuit de samedi à dimanche.
Même la neige est au programme.
Oui.
Bon, bah écoutez, on en reparlera largement à 8h30, bien entendu, avec notre météo à 7 jours. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 21 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et je vous propose d'écouter d'abord un appel au secours, celui de Cyrille Tirard. Elle a 50 ans, elle a été vice-championne d'Europe de judo. Aujourd'hui, elle gère une salle de sport à Narbonne. Sauf qu'avec les confinements et reconfinements, elle croule sous les dettes. Elle a dû quitter son appartement parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Et maintenant, elle vit dans les vestiaires de sa salle avec son fils de 16 ans.
Ce choix de dormir dans la salle, dans mon esprit, n'était que très provisoire.
Ça fait plus de 2 mois que ça dure.
Plus de 2 mois, voilà, c'est ça, 2 mois et demi maintenant. Avec des périodes difficiles, il a fait froid, il a fait du vent. Il y avait une autre solution, hein, c'était de garder l'appartement et puis d'arrêter tout. J'ai décidé de me battre parce que du coup, je pensais plus à me projeter dans l'avenir. J'ai ouvert cette salle suite au décès de mon fils qui était prof de musculation à l'armée. Cette salle de sport porte son nom. Aujourd'hui, c'est les 1 an de la salle. Ça aurait dû être une journée de fête. Ça ne l'est pas.
Vous pensez que vous allez pouvoir tenir jusqu'à quand comme ça?
Sans aide, je ferme à la fin du mois.
Voilà, Cyril Tirard qui tient une salle de sport à Narbonne au micro RTL de Patrick Hisson. Et si vous voulez l'aider, elle et tous ses confrères, sachez qu'une cagnotte Litchi, entrepreneur fitness en détresse, est ouverte. Pas de perspective pour les salles de sport et pas plus pour les remontées mécaniques. Elles ne rouvriront pas au 1er février comme l'espéraient les professionnels de la montagne. Selon le secrétaire d'État au tourisme, on se dirige tout droit vers une saison blanche.
L'espoir, c'est donc le vaccin. La campagne a franchement accéléré depuis lundi, mais maintenant, il y a embouteillage.
Oui, le dispositif est en place. Plus de 900 centres de vaccination dans toute la France. Mais pour prendre rendez-vous, c'est souvent bien compliqué. Et puis, les doses arrivent au compte-gouttes. Quand elles arrivent à Alençon, l'hôpital va devoir fermer son centre faute de vaccins. Écoutez, Joachim Pueyo, c'est le maire d'Alençon.
On a appris hier qu'on ne pouvait plus programmer pour des personnes qui veulent une primo-injection. Donc on maintient les deuxièmes injections pour les professionnels de santé qui ont eu la première injection, mais faute de suffisamment de vaccins, on ne peut plus programmer d'autres rendez-vous. Donc il y a un problème effectivement, et donc il faut absolument qu'on ait une lisibilité un peu plus forte pour pouvoir programmer les rendez-vous du mois de février et du mois de mars.
Le maire d'Alençon, invité des petits matins d'RTL avec Julien Cellier. Pour l'heure, près de 700 000 personnes ont été vaccinées depuis fin décembre. Mais dans le même temps, le nombre de patients Covid admis en réanimation ne cesse d'augmenter. Plus de 2800 malades. On est au plus haut depuis la mi-décembre. La crise sanitaire a permis aux mutuelles de faire de grosses économies, autour de 2 milliards d'euros. Et pourtant, elles font à nouveau grimper leurs tarifs cette année. Hausse de 4% selon l'association UFC Que Choisir. Une façon de répercuter la taxe Covid qui doit financer en partie le déficit de la Sécu. Dans le sillage de l'affaire Duhamel, le Sénat s'apprête à durcir la législation sur les crimes sexuels contre les mineurs. Une proposition de loi prévoit de sanctionner tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 13 ans et plus question de s'interroger sur un éventuel consentement. Désormais, de nombreuses voix s'élèvent aussi pour demander que le crime d'inceste devienne imprescriptible. Mais pour l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, c'est une fausse bonne idée.
L'imprescriptibilité, elle est inscrite dans notre droit que pour les crimes contre l'humanité. Vous ne pouvez pas comparer ça à Auschwitz. Vous offensez la mémoire des morts par millions, hommes, femmes, enfants. Deuxièmement, parce que l'imprescriptibilité pose des problèmes en ce qui concerne la mise en œuvre de l'action judiciaire. Plus c'est distant, plus c'est difficile.
Robert Badinter dans RTL Soir avec Thomas Sautou.
RTL 7h33, il n'y a pas de temps à perdre, c'est le premier tweet présidentiel de Joe Biden.
Le démocrate a été investi hier en tant que 46e président des États-Unis et il a immédiatement pris une série de décisions pour détricoter la présidence Trump. Les États-Unis vont réintégrer l'accord de Paris sur le climat, ils reviennent au sein de l'Organisation mondiale de la santé, la construction du mur à la frontière avec le Mexique est suspendue. Joe Biden qui place sa présidence sous le signe de l'unité retrouvée.
L'histoire américaine ne dépend pas de l'un d'entre nous ou de certains d'entre nous, mais de nous tous, nous, le peuple. Il y a des moments dans l'histoire où l'unité américaine a été bousculée. Nous l'avons vécu pendant la guerre de sécession, après l'assassinat de Martin Luther King. Nous sommes dans un de ces moments. Rien n'est impossible si nous le faisons ensemble.
Joe Biden prévient par ailleurs que les États-Unis entrent dans la phase la plus dure et la plus mortelle de la crise sanitaire. Désormais, le Covid-19 a fait plus de morts américains que la Seconde Guerre mondiale, 405 000 décès en tout. Donald Trump, lui, est déjà loin dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le président sortant a quitté la Maison-Blanche en promettant de revenir d'une façon ou d'une autre.
Je veux remercier le Congrès car nous avons vraiment bien travaillé, ou du moins avec certaines personnes du Congrès. Nous avons réussi à faire tellement de choses qui paraissent impossibles, donc merci au Congrès et à toutes les personnes à Washington qui ont travaillé avec moi et qui ont permis que ce miracle arrive. Donc, portez-vous bien, nous nous reverrons.
Les adieux de Donald Trump. Le foot, rien ne va plus à l'OM. Marseille a de nouveau été battu hier soir à domicile. Défaite 1-0 face à Lens en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Le coach André Villas-Boas est tout simplement écœuré.
Je ne pense pas que c'est mort, mais oui, c'est un gros ralentissement par rapport à ce qu'on avait. Est-ce que la dynamique des résultats, ça semble que ne change jamais. Je suis disponible totalement pour la direction. J'ai mis ma place à leur disposition la semaine dernière. Ça, ce n'est pas un problème.
André Villas-Boas au micro RTL. Hugo Hamelin, notez que ce n'est pas plus glorieux pour le Real Madrid de Zinedine Zidane, sorti en 16e de finale de la Coupe du Roi par une équipe de 3e division.
Non.
Zizou assume, il affirme que non, ça n'est pas une honte.
Et bien voilà, c'était donc le Tout Info avec Isabelle Choquet. Nous, on va se retrouver à 8h40 gentiment pour la face cachée de la Une.
Oui, on va s'intéresser à une étrange tribu, Yves, les accros aux annonces immobilières. Ils cherchent, ils visitent, mais ils n'achètent jamais.
Ah oui, explique ça. C'est une forme de perversion. Allez, à tout à l'heure. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous avez décidé de comparer les différents plans de relance. Expliquez-nous ça.
Oui, au moment où le nouveau président américain lance son propre plan de stimulation de l'économie, le son croisé sur l'art de la relance de part et d'autre de l'Atlantique. Je vous raconte ça tout de suite.
Bon, bonne stimulation et à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, L'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
La nouvelle administration américaine s'apprête à déclencher un nouveau plan de relance qui diffère pas mal de celui que l'Europe a préparé. Expliquez-nous ça.
1900 milliards de dollars, ça fait près de 1600 milliards d'euros. Mm-hmm. C'est le montant de l'enveloppe annoncée par Joe Biden pour stimuler l'économie américaine. C'est un peu moins de 10% du PIB du pays. En fait, ça s'ajoute aux quelques 3000 milliards de dollars qui avaient été injectés par Donald Trump depuis le déclenchement de l'épidémie. Avec ce plan, un Américain moyen devrait recevoir 1400 dollars, soit 1200 euros pour dépenser. Biden compte également mettre en place une assurance chômage fédérale de 400 dollars par semaine. Ça fait 1400 euros ah oui. par mois. Des crédits d'impôts supplémentaires pour les familles, des congés maladie pour les victimes du Covid également. Ajouté à ça, enfin, la trêve pour les expulsions locatives va être prolongée jusqu'en septembre. Et puis, il devrait y avoir un allègement de la dette contractée par les étudiants pour financer leurs études. Oui. Vous connaissez ce problème aux États-Unis qui est grave parce que c'est une dette qui pèse lourdement sur les classes moyennes.
Quand je vous écoute, on se dit, mais alors ça c'est un plan qui aide d'abord les ménages. Hein.
C'est vrai. Il s'attache principalement à soutenir les revenus des Américains. Il est là encore dans la continuité des plans que Trump avait lancés, qui eux aussi misaient sur de l'argent donné aux ménages, financé par le budget fédéral, c'est-à-dire par la dette. En fait, ça correspond à ce qu'ont fait les pays européens, mais de façon moins visible, avec leur État-providence, dont ils ont étendu le bénéfice. Exemple en France, avec la mise en place du chômage partiel pour que l'État se substitue aux entreprises souffrant de la crise et finance les salaires des employés en quasi-totalité. Au lieu d'envoyer des chèques comme aux États-Unis, les Européens ont massivement sollicité leur système social pour préserver les revenus des ménages, alors que l'Amérique, elle a étendu son système social dans l'urgence parce que il était beaucoup moins protecteur.
Bon, si je résume, finalement, tout le monde fait la même chose ?
Ça se ressemble. De part et d'autre de l'Atlantique, la crise sanitaire s'est traduite par des transferts considérables de l'État vers les ménages, c'est-à-dire une envolée des dépenses sociales financées par endettement. D'ailleurs, la dette publique américaine atteint, avant même le plan Biden, un peu plus de 100% du PIB. Bon, on n'est pas très loin de la moyenne européenne, enfin de la moyenne de la zone euro. Et de part et d'autre de l'Atlantique, après le soutien aux ménages, on va travailler à des actions plus durables sur la croissance, notamment transition énergétique, décarbonation de l'économie, etc. Oui. En Europe, ça devrait se faire avec le plan de relance de la Commission, 750 milliards d'euros, qu'on attend toujours, entre parenthèses.
Oui.
Et aux États-Unis, ça se fera avec le second paquet des mesures économiques de Biden. Amérique et Europe sont donc assez similaires dans leur lutte contre la crise.
Mais connaissent-elles une crise de même ampleur, François ?
Eh bien, pas du tout. C'est ça qui est étonnant. La récession en 2020, elle aura été deux fois moins forte aux États-Unis que dans la zone euro. Moins 3,6 en Amérique, chiffre provisoire, contre moins 7% en Europe. En fait, l'Europe a largement confiné. C'est ça qui a coûté cher en termes de croissance. Ce qui n'est pas le cas de l'Amérique. Quant à l'emploi, il a connu une chute beaucoup plus profonde aux États-Unis que chez nous. J'allais dire comme d'habitude, au moment de chaque choc, c'est la même chose. Mais comme d'habitude, il remontera aussi plus vite que chez nous, une fois la crise passée.
Merci beaucoup François Langlais, il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui publie prochainement un dictionnaire amoureux de la géopolitique aux éditions Plon. Tiens, je lui demanderai si les Européens vont y gagner ou pas avec Joe Biden à la Maison Blanche.
A tout de suite avec l'ancien ministre des Affaires étrangères. Hubert Védrine sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
L'Europe a de nouveaux amis à la Maison Blanche. Voilà comment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l'arrivée de Joe Biden. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour les Européens, ce sera mieux avec Biden qu'avec Trump ?
Elle a raison de dire ça, elle est dans son rôle, bien sûr. D'ailleurs, dans la vieille formule qui synthétisait l'attitude diplomatique française sous la Ve République, on disait « ami », okay. Allié, ça c'est vrai, mais pas aligné. C'était le problème permanent de la France par rapport aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir un changement de ton, c'est déjà le cas. Donc, on tourne la page de la grossièreté, la vulgarité, l'agressivité, tous ces phénomènes incroyables, ubuesques de Trump, qui est culminé avec le 6 janvier, mais...
Le Capitole, oui.
Mais ce serait absurde de croire qu'on va faire, avoir affaire à des Américains qui disent « c'est chouette, on revient dans le multilatéralisme, on est des sortes de boy scouts collectifs pour pousser nos intérêts communs ». Non. Les États-Unis reviennent dans toutes les instances internationales.
Oui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple.
Très bien, très bien. C'est fondamental. Mais c'est pour exercer leur leadership. Et la priorité de la...
Ça reste américano-américain, selon vous?
Pas uniquement américain, mais c'est pour le leadership. D'ailleurs, Biden emploie les mêmes termes que tous les présidents américains. Nous revenons pour conduire le monde libre. C'est ça que ça veut dire. Donc, ils vont vouloir que les Européens se mettent derrière eux pour poursuivre le bras de fer avec la Chine. Ça, ça ne va pas varier. Le ton change, bien sûr, mais sur le fond, ça va continuer. Donc, pour les Européens, il faut dépasser le stade compréhensible. On est soulagé, l'horrible Trump est reparti, très bien. Mais il faut dépasser ça. Il faut dire, bon, nous avons nos... Il ne faut pas simplement dire, mais merci, nos amis les Américains, qui vont être bons pour nous, qui vont nous aider. Ils ne vont pas faire le job à notre place. Donc, il faut avoir nos positions intelligentes et dire, on est content de pouvoir reparler normalement avec des partenaires normaux de nos problèmes en commun.
Je fais juste une petite insiste sur la France.
Mais les dirigeants européens sont un peu sur cette ligne, en fait. Il y a une partie des opinions qui sont très contentes que Trump soit viré, mais les dirigeants sont un peu sur cette ligne raisonnable.
Une toute petite insiste sur la France, parce que Emmanuel Macron a dit « welcome back » hier, en soulignant le retour dans l'accord de Paris des États-Unis. Emmanuel Macron s'était trompé sur Trump. Il avait pensé pouvoir le mettre dans la poche. Et puis finalement, on a bien vu que même si on lui déroulait le tapis rouge, la Tour Eiffel le 14 juillet, ça ne marchait pas.
Moi, je ne dirais pas qu'il s'est trompé. Mais à l'époque, comme aucun dirigeant au monde arrivait à avoir une relation normale avec Trump, pour parler rationnellement de quoi que ce soit, etc., il s'était dit, et pourquoi pas, c'était une tentative astucieuse, je vais jouer la carte de l'amitié. Amitié, invitation, etc. C'était pas absurde d'essayer. Hein. Bon, ça n'a pas marché compte tenu de ce qu'est Trump, mais on peut pas dire qu'il se soit trompé. C'est une tentative qui, compte tenu de la personnalité particulière de Trump, n'a pas marché. Mais peu importe. Oui, il y a des moments où les choses sont bloquées. Il faut avoir des approches non conventionnelles. Bon, ce ne sera pas le cas avec Biden, qui est un professionnel aguerri.
On comprend de ce que vous nous disiez que l'administration Biden restera sur la même ligne que celle de Trump vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, Anthony Blinken, le nouveau chef de la diplomatie américaine, a presque rendu hommage à Trump en disant qu'il avait raison d'avoir adopté une position plus ferme. Mais est-ce que vous pensez que les États-Unis vont vouloir nous entraîner, nous les Européens, dans un front uni contre la Chine ?
Oui. Oui, mais ils le disent déjà. Ils voudraient d'ailleurs l'idée du sommet des démocraties.
Mais c'est une bonne chose ou pas ?
C'est une vieille... Non, c'est compliqué à gérer. Bien sûr, il faut dépasser la naïveté qui a été celle des Occidentaux par rapport à la Chine dans la période de l'américano-globalisation sur la base d'un pacte avec la Chine. Bon, ça c'est les 30 à 40 dernières années, c'est la politique Kissinger-Mao, puis Deng Xiaoping, etc., etc. Les Occidentaux ont compris que ça avait été trop loin et qu'on est trop dépendant. Il faut quand même avoir des espèces de rapports positifs avec la Chine. Donc il ne s'agit pas de passer globalement dans le camp des États-Unis, même si à la fin des fins, les Européens seront du côté américain et pas du côté chinois. Ils ne peuvent pas, ce serait trop dangereux. Mais il faudrait que l'Europe arrive à ne pas avoir à faire ce choix, vous voyez. Le choix que vous posez dans votre question, qui est question justifiée.
Mais là, par exemple, on vient de signer un accord commercial avec la Chine. Est-ce qu'on aurait eu plus de poids, nous, les Européens, si on avait attendu que Biden soit installé ?
Non, non.
Mais notamment pour les concessions sur les droits de l'homme. On sait très bien que la Chine ne va pas être au garde-à-vous sur les droits de l'homme.
Mais personne n'arrivera à influencer la Chine. C'est absurde. Ça, c'est
donc on fait semblant.
C'est une espèce de vision, disons, nombriliste particulière de une partie des opinions européennes. Bon, il n'y a pas d'influence sur la Chine. On n'arrive même pas à influencer les États-Unis, etc. Non, sur la question de l'accord... Évidemment, c'est à la demande de l'Allemagne qui a mené sans arrêt, y compris dans l'affaire du plan de relance et sur tous les plans. Elle est guidée par une vision économique et commerciale de sa politique avec un grand succès. Donc elle a poussé à ce que ça se fasse vite, précisément pour qu'on n'ait pas à attendre le bon vouloir de l'administration Biden qui venait dire non, il faut vous mettre derrière nous, globalement, dans le sommet des démocraties, etc. Il faut endiguer la Chine, mettre en œuvre la stratégie qu'on appelle Indo-Pacifique, rassembler tous les pays qui sont hostiles ou inquiets par rapport à la Chine. Il ne faut pas que les Européens n'aient que ce choix. Donc moi, je défends tout à fait l'idée que l'accord était signé avant. Et sur les autres sujets, même l'OMS, où c'est très très bien, c'est un cadre d'avenir. Il faut dire, voilà nos positions européennes, Et on est content d'en discuter avec des partenaires normo-américains. Pas et simplement attendre leur décision.
Et sur la pandémie du coronavirus, Hubert Védrine, est-ce que l'arrivée de Joe Biden nous renforce ou est-ce qu'on est seul face à la pandémie, nous Européens ?
Nous, c'est qui ?
Nous, Européens.
Attendez, on a nos propres problèmes et on ne peut pas donner des leçons au reste du monde. Hein. Les seuls pays qui s'en sortent bien, c'est des pays d'Asie, qu'ils soient la Chine ou d'autres, ou des pays d'Asie du Sud-Est, qui avaient tiré les leçons des épidémies d'avant. Donc ils ont eu des réponses collectives et des comportements collectifs qui ne sont pas les mêmes. Et ça, il faudra tirer des leçons des politiques du monde entier, dans une OMS rénovée, pour faire face à ce que les virologues nous disent malheureusement, qui est qu'il y aura régulièrement des pandémies. Mmh. Bon, alors dans l'affaire américaine, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais la Biden va changer, complètement changer la politique américaine, mais c'est plutôt leur problème que le nôtre, là.
Mais vous pensez que Joe Biden sera à la hauteur des enjeux ? On parle de la Chine, mais il y a aussi l'Iran qui est sur la voie de la fabrication de la bombe atomique. Donald Trump avait quitté l'accord, mais je pense à la Russie, je pense à la Turquie.
J'en sais rien.
Vous pensez qu'il est à la hauteur de ces enjeux-là ?
Ben, c'est pas Biden, c'est toute une équipe. Et puis les gens avaient élu Trump, on est obligé de l'admettre. Ils ont élu Biden, bien sûr. Alors ça dépend des cas. Par exemple, sur l'Iran, ils ont annoncé qu'ils voulaient, disons, réactiver l'accord, mais en posant des conditions que sans doute l'Iran va refuser. Mais quand même, il y a une discussion. Elle a déjà commencé discrètement. Pour les Européens, c'est bien, parce que l'accord d'Obama est intelligent. Bon, ça, c'est un cas particulier. Si on peut collectivement, pour le coup, remettre en marche l'accord, c'est un progrès évident. Dans d'autres domaines, ça dépend. Je vous ai dit, le déblocage de l'OMC, vous l'avez cité, c'est bien. Remise en marche de l'OMS, c'est bien, parce qu'il faut aussi un peu, discipliner la Chine, qui avait abusé de son lien avec l'OMS. Ça dépend des sujets, en fait. Mmh. Mais dans la relation globale, c'est-à-dire comment on se comporte par rapport à la Chine et par rapport à la Russie, où les démocrates vont durcir, parce que comme ils ont inventé la fable que l'élection de Trump était due à la Russie, évidemment, il y a énormément d'horribles manœuvres russes, c'est évident. Mais faire croire que c'est à cause de ça que les Américains avaient vu le Trump, c'est juste délirant. Du coup, ils sont pris à leur propre piège, ils sont obligés de durcir sur la Russie. Sur tous ces points, il faudrait que les Européens, donc d'abord la France et l'Allemagne, et puis les autres, aient leur propre position. Pour dire dans certains cas, Biden, on est totalement d'accord, super. On a vu. Dans d'autres cas, on veut discuter. Dans d'autres cas, non, on a notre propre vision. C'est ça, des alliés normaux, vous voyez, si on y arrive.
Vous le connaissez ?
Donc l'enjeu est chez nous, en fait.
Vous le connaissez, vous, Joe Biden ?
Ah non, moi, à l'époque, longue, j'étais au pouvoir, c'était Biden. Si, je l'ai croisé plusieurs fois, il était vice-président.
Il a été sénateur en 73, donc ça date un peu.
Alors, très expérimenté, ce qu'il a présidé, la commission des affaires étrangères du Sénat, qui est très importante dans le système américain. Non, c'est un vrai professionnel. Non, je lui ai croisé la main, je lui ai serré la main trois fois, mais c'est tout.
Vous diriez que c'est un président normal ?
Ça veut rien dire.
On le savait. Vous pensez que sa vice-présidente Kamala Harris arrivera aux commandes plus tôt qu'on ne le pense ?
Non, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Il y a bien des mouvements qui sont surexcités, parce que c'est une femme qui est remarquable d'ailleurs, qui est d'ailleurs à la fois jamaïcaine et indienne d'origine. Hein. C'est pas une noire américaine au sens classique, dans le jeu américain interne, c'est une nuance qui compte. En général, les vice-présidents ne jouent aucun rôle. En général, sauf s'il y a un président qui trouve utile de, par exemple, Reagan mettait en avant George Bush père, qui était très expérimenté, qui avait été ambassadeur à Pékin, qui avait dirigé la CIA. Donc, ça dépend de l'arrangement.
Mais on ne la met en avant que par sa couleur de peau ?
Bah, les médias, oui, c'est ça l'argument principal. C'est une femme noire, comme on dit. Mais il y a un risque de malentendu, sympathique, naïf, comme au début avec Obama. Ils ont dit, c'est merveilleux, les Américains ont élu un noir, donc on va marcher sur les eaux. Alors qu'Obama lui-même a eu fait un discours sur l'Amérique post-raciale. Avant, il voulait pas du tout être présenté comme ça. Ça l'énervait horriblement. Donc faut pas se tromper sur Madame Harris, qui est très bonne, très compétente, très ambitieuse, qui est centriste. Et le coup de génie de Biden, c'est d'avoir pris une femme considérée comme une femme noire, en tout cas pas blanche, et qui est plutôt centriste. Alors il en aura besoin, parce qu'il va être harcelé par ses gauchistes. Il aura des sortes de frondeurs dans le Parti démocrate, voyez. Alors non seulement il doit essayer de trouver des élus républicains ayant lâché Trump et qui veulent travailler avec lui au Sénat, parce qu'il y a plein de décisions, il faut pas simplement une voix de majorité au Sénat, il faut des majorités qualifiées. Donc il a besoin de ça, il aura besoin d'avoir, disons, un Parti démocrate à peu près discipliné et homogène. Et là, je n'en sais rien, je suis au courant de rien, personne ne le sait, il a peut-être même pas décidé. Mais je pense que Mme Harris peut être une carte formidable pour lui sur le plan interne.
Merci beaucoup Hubert Védrine.
L'Amérique est de retour dans les affaires du monde pour exercer son leadership, vient de nous dire notamment notre ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, sur Kamala Harris, compétente et ambitieuse. Donc elle a une bonne note. Merci infiniment à tous les deux. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr et dans un instant c'est Cyprien Sini qui est avec nous avec cette question passionnante: faut-il raser sa barbe sous son masque?
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
7h56, vous prenez brillamment la suite d'Hubert Védrine.
Ouais, compliqué.
Et ce matin, on s'occupe de raser sa barbe sous son masque.
Mais oui, parce qu'hier, là, pendant que vous aviez tous les yeux rivés sur le micro doré de Lady Gaga. Ça sent bien quand même. Et sur...
Joseph Robinette Biden Jr.
Et sur l'histoire qui s'écrit avec l'investiture de Joseph Robinette. Hein. Je peux vous dire qu'en Autriche et en Allemagne, bah, ils avaient d'autres chats à fouetter. Hein. Oui, les Allemands et les Autrichiens font désormais face à un vrai dilemme. Oui, comme le chantait le regretté Corbier, sans ma barbe, quelle barbe ! Car certains maires et spécialistes des aérosols demandent désormais aux Autrichiens et aux Allemands de tout simplement raser leur barbe. La raison, eh ben ça.
Le port de la barbe réduit-il l'efficacité des masques ?
Eh oui, la question qui revient sur le tapis, puisque face à la contagiosité du variant anglais notamment, nos voisins germains ont décidé...
La généralisation du port du masque de type FFP2.
En Bavière ou en Autriche, ce modèle devient obligatoire dans les commerces et les transports.
FFP2 pour tout le monde, et si le FFP2, certes, protège mieux, bah, il a une incompatibilité.
Certains soignants ont dû couper leur barbe ou leur moustache, en fait, c'est à cause des masques FFP2. Il faut qu'ils collent bien à la peau. Et quand on porte la barbe ou la moustache un peu trop longue, eh bien, effectivement, le taux de fuite augmente.
Et résultat...
La perfection au masculin.
Barbier et rasoir pour tout le monde, comme Louis Baudin. Heureusement que le Père Noël n'est pas allemand. Alors, pour l'instant, en France, on n'en est pas là. Hein. Nous, c'est plus simple, vous le savez désormais.
Bah, les masques, enfin, les masques en tissu fait maison, il faut privilégier les masques industriels de catégorie 1.
Voilà, nous, c'est beaucoup plus simple. Hein. On le répète depuis deux jours, on jette les masques de catégorie 2 et on garde les catégories 1. Je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est limpide.
Apparemment, le catégorie 2, c'est bon, mais je crois que la première catégorie, avec le virus qui vient de muter, etc. Enfin, c'est ce qu'on entend parler.
C'est l'inverse, en fait.
C'est l'inverse.
Ça n'a rien compris. Donc, on répète, hein, catégorie 1 chirurgicale, pour l'instant, on garde. Et puis, comme l'expliquait ce spécialiste sur RTL, le FFP2...
Ces masques FFP2, ça va au contraire apporter un inconfort. Il ne sera pas respirable. On va le manipuler beaucoup avec ses mains parce qu'on ne sera pas à l'aise. Et on fera pire que bien.
Voilà. Hein, alors, à que les barbus et autres moustachus ne se réjouissent pas trop vite non plus. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on nous disait aussi...
Le port du masque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien.
Donc moi, si j'avais une barbe, j'irais quand même m'équiper en rasoir. On ne sait jamais qu'il y ait une pénurie. Hein.
Merci beaucoup Cyprien. On se retrouve ce soir chez Thomas Auton.
Absolument, le monde tel qu'il est.
À tout à l'heure. Bon, le vrai barbier, il sera avec nous hein, tout à l'heure. C'est Christophe, bien entendu.
Je n'ai pas voulu faire cette blague, je vous la laisse.
Eh oui, puisqu'il sort aujourd'hui Les tyrannies de l'épidémie, c'est son dernier livre. Bien entendu, nous reparlerons du Covid chez Fayard et ce sera aux alentours de 8h20-25. Notre météo, Louis Baudin.
Oui, très agité aujourd'hui, on l'a dit, avec deux perturbations qui traversent la France. Une qui est en ce moment dans le nord-est avec des nuages, de la pluie, du vent, 80-90 km/h autour des Vosges notamment. Puis une deuxième qui va arriver cet après-midi par l'Atlantique avec tout autant d'activités, donc des nuages, de la pluie et du vent. On atteindra ou on dépassera les 100 km/h sur la façade atlantique cet après-midi. Cette perturbation, eh bien, elle va traverser toute la France. Donc c'est nuages, pluie pour tout le monde aujourd'hui avec du vent fort. Il n'y a près de la Méditerranée où cet après-midi, et seulement cet après-midi, midi, on pourra avoir quelques éclaircies. Le tout avec des températures en revanche relativement douces pour la période. Pas de gelée en ce moment sur la France en pleine. Et cet après-midi, 8 à 10 degrés près de la Manche, mais 10 à 11 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 11 à 15 degrés dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis Baudin. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Haro sur les complémentaires santé.
Ont-elles profité de la crise pour augmenter leurs tarifs? C'est ce qu'affirme UFC Que Choisir. On fait le point dès le début de ce journal. Mais que fait la police? Encore beaucoup trop de monde dans les rues le soir malgré le couvre-feu. Et puis la colère des pêcheurs français toujours privés d'accès aux eaux anglaises malgré l'accord du Brexit.
RTL Matin.
Les mutuelles ont-elles profité de la crise pour se refaire une santé financière sur le dos des assurés? La réponse est oui, trois fois oui pour l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a décortiqué des centaines de contrats. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Pour 2021, les tarifs augmentent de plus de 4%.
Oui, UFC Que Choisir a comparé plus de 600 contrats de 123 organismes complémentaires différents. Résultat, les assurances santé augmentent de 4,3% cette année. Il s'agit ici d'une valeur médiane. Cela veut dire que la moitié des adhérents ont donc une hausse de leur mutuelle qui dépasse ce pourcentage. L'association de consommateurs estime que cela représente un surcoût de 79 euros par an sur le budget d'un ménage et pour un assuré sur cinq, il est même de plus de 200 euros.
Alors, UFC soupçonne les complémentaires santé de répercuter sur leurs clients la fameuse taxe Covid.
Oui, car l'année dernière, vous le savez, les mutuelles ont fait des économies estimées à 2,2 milliards d'euros. Pourquoi ? Eh bien, il y a eu moins de soins en fait. Le gouvernement avait donc décidé de cette fameuse taxe Covid et de les faire payer 1 milliard d'euros pour compenser une partie du déficit de la sécurité sociale. Et l'association accuse certaines mutuelles bien d'en profiter pour faire peser ce surcoût aux adhérents cette année.
Mais la mutualité française que vous avez contactée pour RTL dément.
Oui, elle conteste fermement la méthodologie du UFC Que Choisir et nous a fourni les résultats de sa propre enquête en exclusivité. Elle indique avoir analysé 14 millions de contrats auprès de 32 mutuelles. Et pour elle, la hausse moyenne des cotisations cette année est de 2,6%. Une évolution similaire à celle des années précédentes, explique la mutualité française, qui se défend donc de répercuter cette taxe Covid sur les cotisations des adhérents.
Merci Arnaud Touche.
RTL, 8h02, près de 700 000 Français déjà vaccinés contre le coronavirus.
100 000 pour la seule journée d'hier, ça s'accélère et le million visé par le gouvernement à la fin du mois semble désormais atteignable. Et par endroit, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien ce sont les seringues qui viennent à vous. C'est le cas notamment dans les zones rurales. Pour RTL, Samuel Goldschmidt a croisé le Vaxibus qui a démarré cette semaine sa tournée autour de Reims.
Le bus se stationne généralement près de la mairie et aussitôt le moteur éteint, il est quasiment prêt à fonctionner sous la supervision de Samy Dalati de la compagnie des bus Citura de Reims.
On a vraiment le bus lambda, un tout petit peu aménagé, quelques rideaux ou quelques prises électriques, hein, avec un groupe électrogène pour le courant, un ordinateur, une imprimante, un frigo pour la conservation des vaccins. Et voilà, on est parti. On a vraiment un bon accueil dans tous les villages.
Il y a même des chauffages d'appoint pour accueillir confortablement les patients.
Comment allez-vous ? Votre carte de sécu, vous avez pris, pièce d'identité, super. Montez doucement, faites attention à la main. Voilà, le médecin va vous recevoir, vous pouvez rentrer.
Bonjour, allez, installez-vous.
Vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un de positif?
Ah non, 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 je suis isolée dans les fins-fonds des Ardennes exprès.
Ce sont les médecins et infirmiers des pompiers qui vaccinent. Après la piqûre, le repos réglementaire de 15 minutes se passe à l'arrière du bus. Les vaccinés sont ravis de cette simplicité.
Ah oui, très bien. Sur quoi faut monter à Reims et la galère pour se garer, déjà une. C'est très pratique dans les petites communes d'avoir ça. Hein. C'est très bien organisé et ils sont très doux et même les piqûres, on les sort pas. Hein. Faut pas avoir peur d'y aller.
Le Vaxibus va viser toutes les communes de moins de 250 habitants du Grand Reims et il reviendra à la bonne date pour la deuxième dose.
Samuel Goldschmidt sur la route du Vaxibus.
On aurait presque envie d'y aller. Hein.
Oui, on aurait presque envie d'y aller avec Samuel. Et comme outil de prévention en dehors des vaccins, bien sûr, certains médecins recommandent la vitamine D. Une tribune est parue il y a quelques jours dans la revue du Praticien et parmi les signataires, le professeur Cédric Anweiler. Il est professeur en gériatrie au CHU d'Angers.
Les personnes qui ont une concentration la plus élevée de vitamine D, lorsqu'elles sont infectées par le Covid, ont ce qu'on appelle un meilleur pronostic, c'est-à-dire une meilleure évolution de la maladie, moins de formes sévères, moins de passages en réanimation et moins de décès. C'est ce qui a été rapporté dans maintenant un nombre important d'études, à la fois en France et à l'étranger. C'est un rappel de bonne pratique. Bien avant l'ère Covid-19, il était déjà recommandé que tout un chacun ait une concentration normale en vitamine D. La porte de sortie de la crise Covid, c'est le vaccin et le respect des mesures barrières et des gestes barrières. Mais nous pensons aussi que rappeler que tout le monde devrait avoir une concentration normale de vitamine D, eh bien c'est une mesure importante dans le contexte que nous traversons.
Voilà pour ces propos recueillis par Patrice Gabart. Mais Sophie Orange, bonjour.
Bonjour.
Vous avez l'air sceptique. C'est pas efficace, la vitamine D?
C'est surtout la Haute Autorité de Santé qui ne recommande pas la vitamine D pour tout le monde, pour prévenir les formes graves du Covid, car elle manque de preuves. Alors c'est vrai que les effets de la vitamine D sont connus sur la calcification des os, par exemple, pour éviter les fractures. Mais pour le moment, ce ne sont que des observations pour le Covid. Il n'y a pas d'études scientifiques publiées qui montrent que la vitamine D empêche la réanimation pour ceux qui sont touchés par le coronavirus. Un essai clinique est en cours, piloté par le CHU d'Angers, qui ne présente d'ailleurs pas la vitamine D. vitamine D comme la solution miracle.
Alors maintenant sur les traitements, Sophie, où en est-on ? Est-ce qu'il y a des traitements aujourd'hui contre le Covid ?
Alors pas de nouvelles molécules, pas de nouveaux traitements, mais des médicaments que l'on connaît depuis des années et que l'on utilise de mieux en mieux, notamment les corticoïdes, les anticoagulants, des stratégies qui permettent pour beaucoup de malades d'éviter la réanimation. Les médecins s'attendaient à ce que de nouveaux médicaments soient trouvés avant un vaccin, ce n'est pas le cas, mais la recherche continue.
Merci beaucoup Sophie Orange. Pas de ruée vers les tests à Saint-Étienne. La ville organisait une opération de dépistage massif. Moins de 4% de la population a répondu à l'appel. L'Union européenne serre les rangs face aux variants du virus. Conseil européen ce soir, Angela Merkel plaide pour un rétablissement des contrôles aux frontières au sein de l'UE. Les 27 doivent aussi trancher sur la mise en place d'un éventuel passeport vaccinal.
Un couvre-feu, mais quel couvre-feu ? 22h30, c'était hier soir dans les rues de Paris. Écoutez.
En général, je rentre plus ou moins alors que je veux, en me disant que sur 500 mètres, j'aurai pas de problème, quoi.
Voilà, et ben vous retrouvez ces joyeux drilles dans quelques instants. C'est la suite du journal.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Le gouvernement n'envisage pas de nouvelles restrictions pour le moment.
Le couvre-feu à 18h pour tous reste donc la règle, sauf dérogation évidemment. Mais comme on l'a vu hier dans ce journal, sur le périphérique parisien, il y a encore du monde en voiture passé 18h. En voiture, mais pas seulement. Vous l'avez constaté dans les rues de la capitale, Vincent Serrano, dans le 18e arrondissement.
Oui, 19h30, place de Clichy, vous avez encore des commerces, un tabac qui sont ouverts, beaucoup de personnes au pas pressé qui rentrent du travail, des parents avec des poussettes qui sortent des crèches et puis d'autres parents comme Maria.
Je vais chercher ma fille chez une copine. Ça n'a pas d'importance pour moi le couvre-feu parce que je pense que ça n'a pas de sens.
Si vous faites contrôler ?
Je donnerai mon attestation d'école.
Et puis on fait quelques mètres, je vois au loin deux jeunes qui sont en train de parler sur un banc. Il est 20h. Qu'est-ce que vous faites là ?
Comme ils travaillaient à côté et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, bah on s'est dit qu'on ferait un tour de pâté et qu'on discuterait un peu.
Ça dure depuis combien de temps ?
Ça fait une heure, ouais.
Et ça va durer encore longtemps ?
Ah mais vraiment, le métro est là et on doit juste trouver la motivation pour se lever et se séparer.
Et puis, dans certaines rues, il n'est pas rare de voir certains attroupements, comme ici, une dizaine de personnes qui discutent entre elles. Mathéo explique que tous ont une raison valable d'être dehors.
Ouais, un cours de stand-up, pour être précis. 19h à 23h.
Alors, on va prendre sur la gauche et on va tomber sur Nicolas, une bouteille à la main. Il est un petit peu plus de 22h30.
Dîner, mes potes sont pas très loin, donc en général, je rentre plus ou moins à l'heure que je veux, en me disant que sur 500 mètres, j'aurai pas de problème, quoi.
Voilà, vous l'aurez compris, toutes les personnes rencontrées fonctionnent sur le même principe, celui du pas vu, pas pris.
On l'a compris, en effet. Merci Vincent Serrano. En bref, aux États-Unis, Joe Biden a signé ses premiers décrets de président pour rompre symboliquement avec l'ère Trump. Comme promis, l'Amérique réintègre l'accord de Paris sur le climat et la construction du mur anti-migrant avec le Mexique est suspendue. De la pop anglaise, grandes oubliées du Brexit. Sting et Elton John, entre autres, accusent le gouvernement britannique de les avoir laissés tomber. Elles ne pourront plus se déplacer librement pour donner des concerts dans l'Union européenne pour leur tournée, donc, et devront demander un visa individuel. En tout cas, c'est ce que disent les textes pour le moment.
Le Brexit qui chagrine aussi les pêcheurs français.
Ils ne peuvent toujours pas accéder aux eaux anglaises, contrairement à ce qui leur avait été promis. Écoutez ce reportage à Boulogne-sur-Mer de Franck Hanson.
Sur le quai Napoléon, le chalutier crotellois s'apprête à repartir au large. Dans sa cabine, Daniel Desmarais, le patron, s'inquiète faute de pouvoir pêcher comme prévu dans cette zone anglaise. Le manque à gagner est important.
On attend les licences et pour l'instant, il n'y a rien qui se débloque. Pour l'instant, on est au pied du mur. Il y a une certaine bande qu'on travaille bien à cette époque-là pour suivre l'encorné, tout ça. Puis là, on peut pas y aller du tout. Dans les zones anglaises, on est entre 40 et 50% de l'année quand même. Il y a des patrouilleurs qui sont là pour surveiller les zones. Donc ça se passe pas du tout comme prévu. En espérant que ça s'arrange au plus vite parce que il y a un manque à gagner énorme.
Des ministres français avaient pourtant promis sur le port boulonnais le jour de l'an un règlement dans les 72 heures. Mais les formalités s'éternisent côté britannique. Occupé à nettoyer ses filets, Stéphane Ramé se sent aussi floué.
Tout le monde se remet côté français et toute la pêcherie européenne. On ne peut pas travailler normalement. On nous retire toujours un peu de liberté dans ce métier. Les Anglais, ils ont voulu le Brexit, les pêcheurs. On voit quand même que ça ne tient pas grand-chose avec les réglementations. Et est-ce que tout a été bien lu dans les petites lignes ? C'est la question qu'on se pose.
Dans la zone industrielle Cap-Écure, les arrivages de produits de la mer d'Outre-Manche sont également ralentis, perturbant l'activité des mareyeurs.
Reportage signé Franck Hanson. Attention, si vous prenez les RER A ou B aujourd'hui en Ile-de-France, les conducteurs sont en grève, le trafic est perturbé. La direction prévoit au moins 50% de circulation sur les deux lignes. Sale temps à Marseille, c'est du football. L'OM s'enfonce un peu plus dans la crise, battu 1-0 hier soir par Lens. Marseille reste à 8 points du podium. Mauvaise passe aussi pour le Real Madrid de Zidane.
Zidane éliminé de la Coupe du Roi par une équipe de 3e division une semaine après sa déroute en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.
L'histoire du jour.
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
À Bali, où le masque est obligatoire, les touristes qui ne le portent pas ou mal et qui n'ont pas d'argent sur eux pour payer l'amende doivent faire des pompes. Oui, jusqu'à 50 pompes sous le regard souvent goguenard des policiers. Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des messieurs en short et en t-shirt s'exécuter dans la chaleur tropicale. Au moins, ça maintient en forme.
Bon, bah comme ça, c'est bien. J'aurais pas envie d'aller à Bali. C'était le journal de Jérôme Flora.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Les fausses informations, notre rendez-vous matinal avec Jean-Mathieu Pernin. Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'investiture de Joe Biden a suscité de très nombreuses intox, mais aussi d'énormes déceptions chez nos amis complotistes.
Eh ben oui, alors Joe Biden, hier, dans son discours, a mis les Américains en garde contre la manipulation des faits et la distorsion d'un discours rationnel cher aux partisans de son prédécesseur. Et on ne peut pas vraiment dire que ce discours est impacté. Puisqu'hier, sur les réseaux sociaux américains et leur relais européen, on pouvait lire encore une nouvelle fois que Joe Biden avait bien perdu l'élection. La preuve que personne n'a voté pour lui, questionne un post Facebook partagé plus de 10 000 fois, eh ben, il n'y a pas grand monde à son investiture. Photo à l'appui. Et c'est vrai que par rapport à l'investiture de Barack Obama ou de Donald Trump, même 4 ans auparavant, le 20 janvier 2021, c'est un peu une grosse touffe de cheveux sur un crâne chauve. Mais il y a une petite raison à cela, c'est ce qu'on appelle le Covid-19.
Ah
en
oui.
fait. Voilà, c'est ça. Foule restreinte à cause de l'épidémie et des craintes de débordement. Des spectateurs remplacés par des drapeaux. L'image a fait le tour du monde. Une nouvelle fois, l'idée de ces messages est évoqué des fraudes démocrates, une intox qui tient depuis début novembre et repris hier encore chez nous par Marion Maréchal sur BFM. L'ex-député FN a affirmé à propos de l'élection américaine, je cite, « Il y a eu des fraudes, c'est manifeste. Est-ce qu'elles ont été suffisantes pour remettre en cause l'élection ? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire et je n'en sais rien. » Alors, une nouvelle fois, aucune fraude n'a été avérée lors du scrutin américain. Tous les recours de l'équipe Trump ont été rejetés, mais le mensonge du vol de scrutin persiste et tourne en boucle chez les tenants de la conspiration.
Alors, nos amis complotistes ont attendu toute la journée qu'il se passe quelque chose.
Et oui, comme le Tour de France, Yves, ils étaient nombreux sur le bord du chemin numérique à attendre le peloton de surprise qui devait survenir lors de l'investiture de Joe Biden. Et puis, rien, en fait. Voilà. Le journal Le Monde évoque même des partisans de QAnon, vous savez, les complotistes très extrêmes présents lors de l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier, totalement déçus. Depuis des semaines, ils promettaient l'arrivée d'une tempête et la mise en place du plan. Alors, quel plan ? On ne sait pas. Mais aucune tempête pendant l'investiture, ni après... Ah bah si, pardon. On nous a signalé quelques flocons de neige sur Washington. Mm-hmm. Alors, pas d'arrestation ni d'émeute. Vraiment, dure journée pour les fabricants de fausses informations.
Bon, une intox assez absurde qui a connu quand même un certain succès.
Oui, en fait, il y en a une qui a vraiment connu un succès. C'est une fanfare militaire qui répétait mardi sous les fenêtres de la Maison Blanche. Est-ce qu'elle a joué le tube de Ray Charles « Hit the road, Jack » qui veut dire en français « Trace ta route, Jack » et ne revient plus jamais, dit la chanson. Un message à Donald Trump, la preuve avec cette vidéo qui a fait tout de même 3 millions de vues sur Twitter et TikTok. Voilà, alors ça a été diffusé mardi.
Excellent.
Et hier de nouveau avec encore plus de succès, sauf que Jim Acosta, correspondant de CNN à la Maison Blanche, a retrouvé le vrai son de la répétition militaire et en fait ça faisait plutôt ça. Voilà, légèrement différent et trompeur. Par contre, Donald Trump a bien quitté la base d'Andrew à Washington pour la Floride au son de YMCA, des Village People. Et oui, une musique que l'on retrouvait dans ses derniers meetings comme un message.
Chacun son goût. Merci beaucoup et à demain, Jean-Mathieu Pernin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h15, pas de durcissement des mesures annoncées ce soir par le gouvernement car le couvre-feu semble produire ses premiers effets. Pourtant, les projections sont assez alarmistes puisqu'on parle d'ores et déjà d'une troisième vague qui serait fatale. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Alors, expliquez-nous ce paradoxe.
Alors, les effets du couvre-feu dépendent d'une décision passée, c'est factuel, alors que les projections regardent le futur. Voilà pourquoi il peut y avoir un décalage. Sur le couvre-feu, c'est vrai, là où il a été avancé à 18h début janvier, le nombre de nouvelles contaminations par jour baisse en moyenne de 16%. Alors dans certaines villes, ça monte, dans d'autres, ça diminue, grâce sûrement à plusieurs facteurs. On saura dans une semaine si le couvre-feu national provoque la même inversion des courbes. Les projections, elles, intègrent une nouvelle donnée, pas des moindres, le variant anglais.
Bon, et elles disent quoi justement, ces projections ?
Alors, pour l'INSERM et l'Institut Pasteur, le variant anglais va remplacer le virus actuel dans quelques semaines. À quelle vitesse ? C'est toute la question. Aujourd'hui, il représente environ 1,4% des tests positifs. Mais si on considère que sa contagiosité est supérieure de 40 à 70% au virus actuelle. Sa présence risque de doubler tous les 8 à 11 jours, selon l'INSERM, ça va vite. Et donc, à ce rythme, le variant anglais sera dominant entre fin février et début avril. Et les hôpitaux se rempliront comme pour la première et la deuxième vague, comme ils se sont remplis d'ailleurs en Angleterre.
Pourquoi cet écart, cette imprécision, hein, fin février, oui, début avril, soit en fait avec 5 à 6 semaines d'écart, un
en
bon
fait,
mois.
C'est exactement, ça dépend des hypothèses de départ. Si on part d'une contagiosité supérieure de 40%, le pic interviendra plus tard. Si c'est 70%, ça ira plus vite. Le pic sera atteint donc fin février. Autre simulation des experts de l'Institut Pasteur, si le virus se transmet 40% plus vite, le nombre de cas par jour du variant britannique sera de 3700 le 1er mars. Si c'est 70%, c'est 26 000 nouveaux cas par jour. C'est vraiment pas la même histoire. Et on ne parle pas du virus sud-africain qu'on connaît encore assez mal.
Bon, c'est inéluctable.
Ben oui, le virus le plus contagieux va l'emporter. Hein, c'est naturel presque. Tout ce qui peut freiner la circulation du virus est donc bon à prendre. Respect strict des gestes barrières, masque correctement porté, couvre-feu parfaitement respecté. Dans ce cas-là, cela ralentira la propagation du virus. Sinon, les médecins, comme le président du SAMU, craignent une troisième vague fatale. On part de très très haut à l'hôpital avec plus de 2800 personnes en réanimation. Tout dépendra aussi de la vitesse de vaccination. Plus la population est immunisée, moins les formes graves sont élevées, moins les hôpitaux sont sous pression. Le vaccin ne fera peut-être gagner qu'une semaine, deux semaines. C'est déjà ça, parce que chaque jour compte.
Chaque jour compte. Merci Sophie Orange. Dans un instant, Michel Simès s'intéresse, lui, à notre alimentation et aux calories dont nous avons vraiment besoin. J'ai bien dit vraiment.
RTL Matin, 7h-9h30.
Avec Yves Calvi. RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour cher Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous intéressez à ce qu'il y a dans notre assiette, c'est pas nouveau, mais vous nous suggérez de le faire avec une calculette.
Oui, une calculette pour compter les calories. Vous avez sans doute remarqué qu'à chaque fois que nous achetons un produit alimentaire, on a le choix entre au moins deux versions de ce produit. Et moi, ce que je remarque en jetant un œil à votre caddie, Yves, c'est que souvent, vous faites le mauvais choix. Ah. Voilà, le choix du tout calorique. Hein, alors qu'il existe systématiquement ou presque un produit équivalent et souvent meilleur sur le plan gustatif.
L'idée, si j'ai bien compris, c'est de nous éviter les kilos superflus.
Oui, pour ça, il y a une règle d'une affolante simplicité, si j'ingurgite plus de calories que je n'en grille,
je grossis.
Ça se conçoit pour ce qu'on mange et ça se conçoit pour ce qu'on boit. Donc je vais commencer par le plus évident, buvez de l'eau.
Combien de calories dans l'eau ?
Zéro, nada, rien. Donc l'eau, vous pouvez y aller de préférence à toute autre boisson, à commencer par le jus de fruits. Si malgré tout vous voulez du sucré, préférez le fruit pressé au jus de fruits industriel, même s'il y a encore mieux à faire en mangeant carrément le fruit plutôt qu'en le pressant. Parce qu'une orange pressée, ça représente environ 90 calories, mais la même orange, si vous la pelez et si vous prenez le temps de la mastiquer, eh ben elle ne représente plus que 60 calories environ. Et en plus, l'effet satiété est plus durable. Mais en matière de comparaison, j'ai beaucoup plus spectaculaire.
Avec quel genre de produit ?
La soupe, produit hivernal par excellence. Si vous optez pour une soupe industrielle, vous flirtez avec les 200 calories. Si vous la faites vous-même avec des légumes de saison, vous dégringolez à une trentaine de calories. Pas besoin d'épiloguer pour comprendre le meilleur choix. Autre catégorie d'aliments où l'on peut limiter l'apport calorique, les féculents. Si vous préférez les lentilles aux pâtes classiques, hein, les pâtes blanches, vous diminuez l'apport calorique de 15%. Sans compter que les lentilles sont plus protéinées, plus riches en fibres et moins sucrées que les pâtes. Autre exemple, poulet. Oui. Avec le poulet, faut pas se tromper de morceau. Si vous vous précipitez sur les ailes ou les cuisses avec la bonne peau bien croustillante qui les entoure, vous grimpez à 375 calories. Ah, oui. Si vous préférez le blanc sans la peau, c'est 138 divisé par calories. Quasiment, oui, du simple au triple. Et j'ajoute que vous serez moins vorace avec le blanc de poulet parce qu'il est plus compact. Et pour prendre un aliment à la mode dont j'ai un peu de mal à comprendre le succès, je vous signale qu'une portion de surimi...
Ça, je n'ai jamais compris.
Voilà, plus, oui. 60 calories. Alors qu'avec cette portion de crevettes fraîches, c'est 47 calories, sans compter que si le surimi contient de la chair de poisson, il ne contient pas que ça, on y trouve aussi de l'eau et du blanc d'œuf. Moralité, méfiez-vous de ce qui est joli.
Merci beaucoup, cher Michel. Avons-nous sacrifié nos libertés sur l'autel du coronavirus ? C'est la question que je vais poser dans quelques instants à Christophe Barbier, qu'il pose dans son livre intitulé « les tyrannies de l'épidémie ». Il est paru hier chez Fayard, il est avec nous dans quelques instants.
Yves Calvi,
RTL Matin.
Il est 8h24, nous retrouvons Christophe Barbier. Bonjour Christophe.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Journaliste, ancien patron de l'Express, on vous retrouve bien entendu chez nos confrères de BFM. Et vous venez de publier « Les tyrannies de l'épidémie » aux éditions Fayard, le livre est sorti hier. Christophe Barbier, si je devais résumer l'année 2020 après la lecture de votre livre, le pire n'a pas été la crise sanitaire, mais l'acceptation d'une multitude d'injonctions que vous qualifiez de tyranniques.
Oui, nous avons tous sacrifié nos libertés dans une forme de concession à la servitude volontaire. Alors pour une bonne cause, nous protéger, sauver notre petite vie, sauver la vie des gens qu'on aime, mais je crois qu'on n'a pas mesuré à quel point on avait sacrifié ses libertés et remis en cause l'essentiel. Sacrifié la vie culturelle, sacrifié le fonctionnement politique. Regardez, hier, l'état d'urgence sanitaire a été voté, le Parlement n'existe plus vraiment, le Conseil des ministres n'existe plus vraiment, tout se décide au Conseil de défense avec l'avis des médecins. On a changé quand même de démocratie.
Vous me dites quoi ? La pandémie a mis à nu la fragilité de nos libertés, c'est ça ?
Oui. On s'est rendu compte que tout ce que l'on n'aurait jamais sacrifié, on serait monté sur un bûcher pour sauver notre vie sociale, sauver notre pratique de la culture. Eh bien, en 5 minutes, on a tout laissé tomber parce qu'on a eu peur d'un virus et peur des gendarmes qui faisaient la circulation autour du virus.
On essaie d'éviter des morts, Christophe Barbier, vous le savez très bien.
Bien sûr. Et cet humanisme-là, nous ne pouvons que nous en féliciter. La vie des gens, même la vie de ceux qui sont très âgés et qui n'ont plus beaucoup d'années à vivre, est devenue sacrée. Mais est-ce qu'on a bien regardé ce que nous sacrifions ? Nous sommes en train peut-être de gâcher 20, 30 années de vie pour les jeunes générations, leur rendre la tâche impossible, les condamner à un avenir sombre parce que nous avons voulu sauver notre petite vie. Mais Albert Camus, qui a écrit une pièce sur la peste, décalée de son roman qui s'appelle L'état de siège, met dans la bouche de son héros qui sauve les gens de l'épidémie cette phrase « Ma vie n'est rien ». Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie.
Alors, c'est un des charmes de votre livre, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous, mais se laisser charmer aussi et intéresser, c'est qu'il y a énormément de citations, vous retrouvez notamment dans le théâtre, vous citez Ionesco, Rhinocéros, vous venez de citer Albert Camus, qui donne, on va dire, de la densité à votre propos. Mais vous appelez à la désobéissance ?
Non.
Que les choses soient claires. Hein.
La désobéissance, c'est trop facile de dire on jette le masque et puis on désobéit. Non.
Merci.
Ce qu'il faut, c'est réfléchir collectivement sur ces libertés que nous devons reconquérir, parce que la servitude volontaire, elle est en nous. C'est nous, on n'a pas eu des soldats qui nous ont forcés à nous confiner. Nous avons tous accepté cela, au nom du sauvetage des vies, mais au nom aussi d'une espèce de conception sacrée de la vie biologique. Est-ce que l'essentiel, c'est cela ? Interrogeons-nous. Est-ce que l'essentiel, c'est de se planquer ? Emmanuel Macron nous dit, nous sommes en guerre et au lieu de partir en guerre, nous nous planquons. C'est étrange comme comportement. Interrogeons-nous sur ce que nous avons fait et voyons comment demain, après l'épidémie, on peut reconstruire un monde où nos libertés seront reconstituées.
J'y viendrai un peu plus tard. Vous préférez la situation au Brésil, aux États-Unis, au Royaume-Uni ?
Non. Ceux qui ont choisi de nier le virus en disant « Ah, c'est une grippette », ils ont eu la double peine. Ils ont eu la peine épidémique et ils ont eu aussi la peine économique. Mais nous, est-ce que nous avons sauvé toutes les vies ? Nous sommes quand même à 70 000 morts. Est-ce que nous n'avons pas programmé pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, des jeunes dépressifs, des chômeurs suicidaires, des commerçants en faillite ? Est-ce que les vies que nous avons sauvées sont aujourd'hui plus nombreuses que les vies que nous allons détruire? On n'a même pas le droit de poser cette question. Et cette question, je la pose. Est-ce que les dégâts sur la jeunesse aujourd'hui ne sont pas plus importants que d'avoir sauvé quelques années de vie pour nous et pour nos aînés?
Vous utilisez dans votre livre le terme de suicide. Guéri et mort à la fois, guéri dans nos corps et mort dans nos âmes, vaccinés et lobotomisés.
C'est-à-dire que nous allons nous réveiller après l'épidémie et nous allons nous rendre compte, un, du désastre économique et deux, peut-être du désastre psychique. Que vont faire ces jeunes générations ? Est-ce que vous croyez qu'elles vont accepter de travailler 2 fois plus longtemps pour rembourser la dette que nous avons creusée là ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une jeunesse qui va déménager et partir à Shanghai ou à Chicago ? Et puis une jeunesse qui va démissionner en disant « Notre vie est foutue, de toute façon, on n'y arrivera pas, vous avez tout cassé ». Si nous laissons cela en héritage, eh bien, nous être confinés et avoir essayer de sauver nos petites vies, eh bien nous l'aurons trop chèrement payé.
Hubert Védrine évoquait tout à l'heure au micro d'Alba Ventura notre entrée dans l'ère des pandémies. J'ai envie de vous dire, ça ne fait que commencer. Et en même temps, heureusement qu'on se laisse impressionner par la mort.
Mais nous ne nous laissons pas impressionner par la mort. Nous refusons la mort. Nous considérons que nous ne devons plus mourir, que nous ne devons être immortels, alors que la mort, hélas, est la chose la plus naturelle du monde. Et au lieu de dire comment bien mourir, au lieu d'écouter Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir, nous disons non, monsieur Macron, monsieur l'État, sauvez-moi, je ne veux pas mourir, je n'accepte pas le moindre risque, je veux le risque zéro. Et ça, c'est une erreur. Si nous rentrons dans l'ère des pandémies, est-ce qu'on va à chaque fois arrêter nos économies, arrêter le pays, demander aux jeunes de quitter l'enseignement et de passer en distanciel ? Est-ce qu'on va à chaque fois tout détruire pour sauver nos vies ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas se dire, enfin, d'assumer de vivre avec le virus, de vivre malgré le virus, avec des risques ? Mais la vie, c'est le risque. Le risque, c'est le pays de l'avenir.
Alors, normalement, à la question que vous venez de poser, on doit répondre par « maintenant on attend le vaccin ». C'est-à-dire que c'est lui la réponse. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Et est-ce que vous l'attendez vraiment? Et est-ce que vous y croyez, si je puis dire?
Bien sûr.
On n'est pas dans les phénomènes de croyance. Hein,
bien sûr, complet, mais... j'y crois. Et je constate que ceux qui nous ont dit au début « vous voyez, le virus, c'est la faute de la mondialisation, c'est à cause de la libéralisation de l'économie qu'on a eu cette pandémie ». Ben, on doit reconnaître aujourd'hui que la mondialisation nous a apporté le vaccin. Mondialisation des chercheurs, des savoirs, du génie humain. En moins d'un an, un vaccin, c'est formidable. Et la mondialisation dans nos contrées européennes, elle est égalitaire. Puisque si vous êtes un riche notaire bavarois ou un pauvre berger grec, vous êtes vacciné normalement à peu près en même temps, puisque l'Europe a acheté des vaccins et les distribue de manière égalitaire. La grande bonne nouvelle de cette année, c'est que ça a fait surgir une nouvelle Europe. L'Europe qui s'endette en tant qu'Europe, oui. Donc c'est la naissance d'une nation européenne, d'un État européen, l'embryon, et puis l'Europe qui achète les vaccins en commun pour que les pays riches ne les monopolisent pas.
Alors comme votre pensée est stimulante, on a tellement de questions à vous poser. Et il y a des passages excellents dans ce livre sur l'omniprésence des médecins, moi qui leur donne beaucoup la parole, dans les médias, et finalement on découvre que le monde médical n'est pas tant de non plus. C'est quoi, une tyrannie de plus?
Ah oui, c'est une tyrannie de plus. D'abord, ils se font des guerres entre eux, on a vu les guerres de chapelle, on l'a constaté. Ensuite, ils viennent sur les plateaux nous dire il faut confiner, il faut arrêter, il faut faire ceci. Donc ils sont passés dans, non pas dans le diagnostic, comme font les médecins, mais dans l'ordonnance au sens juridique du terme. Le gouvernement signe des ordonnances, maintenant les médecins les signent. Mais si cette tyrannie du médical s'est affirmée, c'est parce que le politique a démissionné. Le politique n'a pas demandé l'avis des médecins, il a demandé l'aval des médecins. Parce que le politique avait peur de la justice et il s'est dit, quand je prends une décision, il faut que je puisse dire dans un an, dans deux ans, regardez, c'est pas moi, c'est la haute autorité de santé.
Une soumission au corps médical ?
Bien sûr. Une soumission protection. Nous, politiques, on se soumet à ce que disent les médecins, parce que si un jour on nous dit, vous avez fait une bêtise, ça a fait des morts, on pourra dire, c'est pas nous, c'est les médecins qui nous l'avait dit.
Donc on aurait pu appeler votre livre le phénomène du parapluie, c'est-à-dire tout le monde se couvre en permanence parce que personne ne veut rendre des comptes à un moment ou un autre.
Et le parapluie n'a jamais empêché la pluie de tomber, mais il nous empêche de voir le ciel. C'est cette civilisation que nous avons choisie.
L'avènement et l'omniprésence du populisme sont-ils une composante de cette épidémie?
Je pense que le populisme n'a pas marqué de point. Il y a eu des populismes, les populismes des anti-vaccins, le phénomène Raoul qui est un phénomène de populisme médical et politique, mais les populistes ont perdu parce qu'au départ ils ont suivi Johnson, Bolsonaro, Trump, et ça a été une catastrophe, une double catastrophe. Et puis ils ont essayé de faire chuter ce que nous aimons, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire la mondialisation. Et on voit que ce qui a tenu le choc, c'est la mondialisation des chercheurs et de l'innovation, et c'est l'Europe de la solidarité. Les populistes ont montré qu'ils n'avaient pas le logiciel pour le 21e siècle dans cette épidémie.
On vit dans un monde qui, d'une certaine façon, se suscite sans s'en apercevoir.
Oui. C'était la conclusion d'Antonin Artaud dans Le théâtre et la peste. On se suicide sans s'en apercevoir. Si on va de confinement en confinement, si on attend le risque zéro, si on attend que tout le monde soit vacciné pour ouvrir les restaurants et les théâtres parce qu'on ne veut pas faire de passeport vaccinal, ah ben, à un moment donné, tout le monde sera vacciné, mais il n'y aura plus de théâtre, il n'y aura plus de restaurant, il n'y aura plus rien. On sera mort guéri, on se sera suicidé sans même s'apercevoir qu'on se suicidait. Et pire, on aura, si j'ose dire, suicidé la jeunesse. Et ça, c'est impardonnable.
Merci beaucoup, Christophe Barbier. Les tyrannies de l'épidémie, votre livre est disponible depuis hier aux éditions Fayard. Merci d'avoir agité nos idées, nous avoir fait phosphorer et réfléchir ce matin. Bonne journée à vous. Journée. Dans un instant, Louis Bodin et la météo à 7 jours.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter.
Tiens, au fait, comment se porte le cinéma français? Après quasiment un an de pandémie entre fermeture, réouverture, refermeture et sans date précise de re-réouverture, notre industrie du 7e art croule sous les films non sortis mais continue de tourner et de préparer des projets très ambitieux. Nous ferons point ce matin avec trois acteurs majeurs du secteur, Jérôme Sédou, le patron de Pathé, et les producteurs Hugo Sélignac et Dimitri Rassam. Rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
8h35. Alors, y aura-t-il une tyrannie de la météo à 7 jours? C'est la grande question, mais c'est vous qui y répondez.
Ah bah c'est le vent là qui a décidé de se manifester un peu. On l'a dit aujourd'hui, du vent sur la moitié nord, du vent près de l'Atlantique, du vent dans le sud. Et puis ça va continuer demain, de nouveau du vent dans la moitié sud, parce qu'une perturbation va traverser ces régions avec beaucoup d'activité, des nuages, de la pluie, de la neige. Elle va encore tomber en abondance sur les Pyrénées, le Massif central, pas en pleine, hein, ou encore sur les Alpes. Beaucoup de vent. Alors sur la face de l'Atlantique, Atlantique d'abord, et puis ensuite en Méditerranée où on atteindra les 100 km/h. Dans la moitié nord, allez, peut-être un petit répit demain et encore entre deux averses. Les températures resteront plutôt douces, mais elles commenceront à baisser. Samedi, c'est une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France avec des températures en baisse et encore du vent assez fort sur la moitié nord, de la neige en montagne, et à partir de samedi soir, ça se confirme, de la neige jusqu'en plaine. Possible dans la moitié nord, on va affiner ça, mais c'est vrai que de la Normandie à l'Île-de-France, dans les régions de l'Est, évidemment en montagne, il y aura de la neige, ça pourrait persister pour la journée de dimanche, peut-être même dans la nuit de dimanche à lundi. Alors bon, compliqué hein, cette échéance de donner des quantités, des localisations précises, mais il y aura un risque sur beaucoup de régions. Et puis en milieu de semaine prochaine, on aura peut-être une petite accalmie et une remontée des températures. Vous voyez que l'hiver, c'est pas fini.
Mais je vais vous dire, votre météo est intéressante. Merci.
Vous êtes comme ça.
Et nous allons vous présenter ce matin un héros anonyme, quelqu'un qui a choisi le sens du devoir comme ligne de conduite. Pascal Sancho a tout donné pour sa vocation et pour son métier de CRS sauveteur en montagne. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré ce jeune retraité qui vient d'écrire un livre de souvenirs où il raconte 30 ans de sa vie à sauver celle des autres dans les Pyrénées et dans d'autres massifs. Un ouvrage qu'il a intitulé « Bravo papa ».
Oui, c'est le nom en radio des premiers hélicoptères de secours basés à Tarbes. Pascal, adolescent, a d'ailleurs décidé de sa vocation en voyant un poster de cet appareil avec un sauveteur accroché dessous.
Quand j'ai vu cette image, je me suis dit immédiatement, c'est ça que je veux faire. Et je l'ai fait. Il faut aller toujours au bout de ses rêves. Le téléphone sonne, on est en forme ou pas en forme, on a des soucis dans la vie. Et dès l'instant qu'il s'agit d'aller faire une opération de secours, il y a une certaine magie qui s'opère et de suite, tout le monde est motivé. Il n'y a plus qu'à savoir quel va être le puni pour rester au téléphone. Et puis on part.
C'est parti.
Bravo 34, le Père Romain. Le délai d'intervention, 10 minutes, bien reçu.
Carven, c'est l'indicatif des sauveteurs. Dagan 64, celui de l'hélico de la sécurité civile des Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit d'un exercice auquel a participé Pascal dans le cirque de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées.
J'ai eu la chance de voyager beaucoup, d'amener des gens, des amis sur pas mal de sommets dans le monde. Il n'y a rien qui puisse se rapprocher de cette émotion que procure une mission de secours.
Et alors, au fil des pages et de la carrière de Pascal Sancho, il y a un sauvetage qui l'a particulièrement marqué.
Oui, il s'agit d'une opération montée de nuit pour récupérer un groupe d'adolescents partis faire du canyoning.
Ça aurait pu très mal se passer, être un drame. Et ce soir-là, toutes les planètes s'étaient bien alignées. On a fait un merveilleux secours techniquement difficile. Il y avait un gamin qui ressemblait à mon fils, il y avait plein de choses. On n'avait pas trop droit à l'erreur. Dès l'instant qu'on intervient sur des enfants, on a un supplément d'âme, on a une obligation de résultat. On l'a tout le temps, mais là encore plus. Quoi.
Mais Pascal raconte aussi les drames. Quand dans la radio résonne le code Delta Charlie Delta, qui signifie « décédé ». Cette profession paie le plus lourd tribut à sa mission, loin devant les unités d'élite du RAID ou du GIGN.
Moi, j'ai perdu 6 camarades en une trentaine d'années. Sur un groupe de 40, ça fait beaucoup. On va repartir avec une énergie qui est peut-être surmultipliée parce qu'on pense à ceux qui sont plus là et qu'on se doit de continuer la mission.
Pascal Sancho a quitté la police il y a plus de 4 ans. Il se consacre à sa passion pour l'écriture et ses compétences de montagnard. Il les met au service de son métier de guide international. Ses clients ne peuvent que devenir ses amis. Figurez-vous que parmi eux, il y a notre Laurent Gérard.
Oui, je lui fais un petit coucou. On a eu la chance de partager des grands moments un petit peu partout dans le monde, ski au pied, puisque c'est sa grande passion.
Pascal Sancho, camarade de Laurent Gérard, rencontré par Patrick Tégéraud, vous êtes comme ça. L'occasion de rendre hommage à tous les sauveteurs en montagne. Son livre « Bravo papa », passionnant, est publié aux éditions Mareuil.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h39, alors on a tous déjà rêvassé devant la vitrine d'une agence immobilière, mais certains en font une addiction. Racontez-nous tout cela, Isabelle Choquet.
Ouais, ce sont des gens qui multiplient les alertes sur les sites spécialisés, qui visitent des biens qu'ils ne pourront jamais acheter. L'Obs s'est penché sur les mœurs de cette étrange tribu. Ça pourrait être vous ou moi, Yves. Au hasard d'une balade, dans la rue ou sur le net, on s'attarde devant un trois pièces, pas forcément dans nos moyens, mais vraiment chouette. Et puis un jour, on bascule. On se voit dans une longère normande, un loft renversant et pourquoi pas, tiens, une villa californienne. On se vautre virtuellement dans les moulures, on kiffe les baies vitrées panoramiques. Ça a un nom, ça. C'est le real estate porn, le porno immobilier, si vous préférez. Le plaisir inavoué du lèche-vitrine foncier chauffé à blanc par des prix indécents. C'est le petit plaisir d'Anne qui vit dans un 65 mètres carrés à Thionville. Je m'imagine propriétaire d'une ancienne ferme rénovée, entourée d'un bourricot et d'adorables biquettes. À table, il y aurait mes meilleurs copains, une bonne bouteille de vin. en fait, j'ai pas de vrai projet d'achat. Anne pensait être un cas isolé, mais non, il y en a d'autres. Il y a Robin, fan d'architecture, qui mate de la pierre par amour des belles choses, dit-il, par curiosité et peut-être un peu par voyeurisme. Il y passe 20 minutes par jour, 20 minutes à rêver décoration d'intérieur. La porte-parole du groupe Se Loger confirme, c'est difficile à quantifier, mais il existe bien des curieux qui consultent sans intention d'acquérir. Chez Juno, agence parisienne de luxe, on arrive à chiffrer le phénomène. 250 000 visites par an sur le portail internet, seulement 400 ventes conclues, autrement dit 0,16% d'acheteurs. Le reste, eh bien, ils regardent, ils rêvent. Étrange ? Pas tant que ça. Selon Yann Valeur, spécialiste des addictions en ligne, avoir très envie de quelque chose et s'en approcher, c'est une forme de pulsion de vie. Et puis une maison, ce n'est pas un achat comme les autres. Quentin se souvient du projet de déménagement de ses parents quand il était môme. On visitait des dizaines de maisons en famille et le soir, on en parlait pendant des heures. C'était des moments de communion, ça me rassurait. C'est rassurant, mais parfois aussi c'est plombant. J'avais repéré une maison à plusieurs millions, un truc incroyable à Paris avec un jardin presque tropical. Quand elle a été vendue, ça m'a foutu un coup. La recherche elle-même peut avoir des effets pervers, Yves. J'en ai presque honte, dit Antoine. Mes potes se foutent de ma gueule. Je passe des heures à me languir devant des villas nichées sur le lac de Côme. Résultat, les biens dans mon budget me paraissent minuscules. Ma réalité me déprime. Sophie, elle, ça fait longtemps qu'elle est propriétaire de logements toujours plus grands, mais elle n'en a jamais assez. D'après mes proches, ça vire au toc, dit-elle. Le matin, je pars acheter du pain. Je reviens deux heures plus tard, après avoir religieusement comparé les prix et observé les nouveautés dans chaque agence. Je peux faire ça tous les jours. Elle s'autorise même quelques visites, y compris dans des villas avec piscine loin de tout, alors qu'elle n'a pas les moyens et pas le permis. Sa réputation la précède. Quand les agents immobiliers de mon quartier me voient pousser leur porte, ils soupirent. Oh non, pas elle. Certains addicts arrivent quand même à se sevrer. Un matin, Elsa s'est désabonnée de toutes ses alertes immobilières. Cette trentenaire au RSA se passionne désormais pour les locations de vacances. Oula. Je peux passer des heures à regarder des appartements somptueux, dit-elle, sauf que là, au moins, je me dis que je vais en profiter quelques jours, une seule nuit peut-être. Mais bon, on connaît la chanson, Yves, rêver, c'est déjà ça. Real Estate Porn, le porno immobilier, article à lire dans l'Obs cette semaine avec Rue 89.
Vous nous avez ouvert des horizons, hein, pour agent immobilier. Merci beaucoup Isabelle Choquet, à demain.
À demain.
Dans un instant, Laurent Gérard.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Nous sommes jeudi matin, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Particulièrement exposée ces derniers temps, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a décidé de rendre coup pour coup à ceux qui la critiquent. Bonjour Madame Bachelot.
Gros !
Ah, d'accord, je comprends, vous êtes dans votre personnage de Lyonne. Il paraît que c'est le surnom que vous a donné le Premier ministre Jean Castex.
Mais oui, le grand dindin de Matignon m'appelle Malionne. Depuis que j'ai bouffé tout cru deux ou trois technocrates de Bercy qui voulaient me raboter mon budget pour apprendre l'alphabet aux rappeurs français. Gros, pas touche.
Votre cabinet ministériel vous a d'ailleurs offert une broche en forme de lionne que vous montrez fièrement à ceux qui font courir le bruit que vous seriez abattu, voire dépressive.
C'est vrai. J'ai même dit que je suis comme le maréchal Foch. Si on me marche sur la queue, j'attaque. Oh, le...
Vous êtes sûr de la citation du maréchal Foch ?
Oui. Écoutez, on n'est plus aux grosses têtes à jouer aux devinettes avec Jean-Philippe Janssen. Hein ? L'heure est grave. J'ai tous les cultureux de France sur le dos. Les théâtres à catogan, les chanteurs à capuche, les plasticiens à pull en V, les jongleurs à bonnet, les directeurs de musées à veste en tweed, les abonnés à Télérama qui peuvent plus aller voir les films de François Ozon et d'Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès et Manuel DeVos. Tout le monde m'envoie des pétitions.
Ah, là j'ai l'impression que vous avez quand même comme un petit coup de mou devant l'ampleur de votre mission.
Mais non. Quand je suis face à mes missions si difficiles, je pense à ce que ferait James Bond. Pas les James Bond tout ramollo de Timothy Dalton ou Pierce Brosnan. Le James de Daniel Sgeg. Daniel.
Non, alors c'est Daniel Craig, Roselyne Bachelot, avec un C comme culture.
Ah, ne commencez pas à me chercher des poux dans la crinière. Hein. Sinon, vous allez voir que la lionne va sortir ses crocs.
Ses crocs, vous voulez dire ?
Non, ses crocs.
Depuis son départ de TF1, notre ami Jean-Pierre Pernaut ne reste pas inactif puisque sa chaîne JPPTV, disponible sur Internet, connaît un joli succès d'audience, n'est-ce pas Jean-Pierre ?
Eh oui ma petite Jade, dans cette période morose avec JPPTV, je vous propose de prendre
Une bouffée d'air pur dans notre belle France, cette France rurale que nous aimons toujours autant. Et grâce à JPP TV, plus besoin d'attendre la météo d'Evelyne Delia avec votre téléphone. Vous pouvez voyager dans nos régions, ces régions que nous aimons autant à n'importe quelle heure et n'importe où. Chez l'audioprothésiste, chez le podologue, ou au thé dansant, ou même pendant vos soins à la Bourboule. Et si vous avez des écouteurs, vous pouvez mettre le volume à fond sans que les voisins tapent au plafond.
Ah oui, c'est vraiment pratique. Et qu'est-ce que vous avez à la une de JPP TV en ce moment?
Ah ben en ce moment, bien sûr, l'actualité de nos régions, c'est la campagne de vaccination. Et dans nos petits villages, on n'a pas attendu les décisions des crânes d'œufs de la capitale pour vacciner. Direction Saint-Ennurésy, dans le Périgord jaune de Vannes. Là-bas, monsieur le maire a décidé de vacciner sans attendre tous les habitants de plus de 75 ans, autrement dit, tous les habitants.
Bon, l'approvisionnement en vaccins, ça s'est bien passé, Jean-Pierre?
Ah, mais attention, ma petite Jade, ici, on se méfie des produits américains ou allemands congelés, alors on utilise de la liqueur de pied de cochon que l'on conserve grâce à 80 degrés d'alcool, une liqueur bien connu pour ses propriétés désinfectantes. Oh, et c'est Lucien Lagnol, le bouilleur de cru clandestin du village, qu'on appelle désormais le professeur Lagnol, qui a procédé à l'injection sans exiger évidemment la carte vitale. Comme vous le voyez, si on fait confiance à nos édiles dans nos petits villages, eh ben on sait prendre des initiatives.
Eh bien, merci pour cet exemple édifiant, Jean-Pierre. Mais je crois que nous avons un appel pour vous. Ah. C'est un petit maire d'hiver droite, apparenté la roue du roux. Allez-y, monsieur le maire. Jean-Pierre Pernaud vous écoute.
Allô, Jean-Pierre? C'est Jacques Chasson, on a fait signer. Dites donc, Jean-Pierre, je vais lancer un SOS vibrant. Avec tout leur confinement et leur couvre-feu à répétition à la commande. Bah forcément que nous, ça nous a laissé un trou béant à la festinière. Alors, si ça continue, je vais devoir le boucher, moi, fermer la station. Une bête en grève du poing.
Ouh, merci Jacques Chiasson. On entend votre détresse.
Ah bah, et comment?
Une réaction, Jean-Pierre, à cet appel d'un petit maire désespéré.
Oui. Eh bien, merci Jacques pour ce témoignage. Monsieur le maire, JPP TV va vous envoyer sur place une équipe de gros bras spécialisés.
Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny, se produira le 7 février prochain en live stream, crise sanitaire oblige, depuis l'Olympia.
Wow.
Oui,
bonjour, c'est JB.
Salut. Bonjour JB.
Je vous remercie de parler de mon concert à Conforama.
Ah non, c'est à l'Olympia.
Ah bon?
Oui, oui.
Vous croyez?
Eh oui.
Pourtant, j'ai déjà fait des concerts sur le parking du Conforama de Vierzon et il y avait une bonne ambiance. C'était pendant la quinzaine commerciale des canapés en sky.
Ah.
D'ailleurs, je m'en suis fait un blouson très rock'n'roll.
Ouais, peut-être, mais là, c'est à l'Olympia, en live stream.
En quoi?
En live stream. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de spectateurs dans la salle, mais vos fans pourront le regarder chez eux.
Ben, s'il n'y a personne dans la salle, comment ils feront les fans pour casser les sièges de l'Olympia?
Ben, ils pourront pas.
Hein? Ben, c'est pas grave. Je demanderai à mon copain, sosie vocal comme moi, de le faire lui-même.
Mm-hmm.
Il y arrivera très bien. Parce que c'est un gars de Saint-Estèphe qui est jeune et large d'épaule.
Comment s'appelle-t-il?
Jean-Bernard Guay-Lavillier.
Ah
non.
Il est à côté de moi, je vous le passe.
Bonjour Jean-Bernard Guay-Lavillier.
Oh là, la radée.
Oui.
Je reviens d'un voyage à Cuba-sur-Oise.
Ah oui, très bien.
Où j'ai rencontré le maire. Fidel Castor.
Fidel Castor?
Si, señorita.
C'est Barry White.
Il m'a présenté à son beau-frère, Guevara.
Guevara?
Oui.
Oui.
Jean-Louis Guevara. On a donc été chez Guevara, qui est coiffeur à Revolution Air. T'as noté le jeu de mots, la radée? Revolution Air.
Oui, merci, tout à fait. On reconnaît bien là l'humour des coiffeurs.
Ensuite, on est allé dans la jungle tropicale.
Non, où ça?
À Center Park. On est comme ça, nous autres, les musicos, sur la route à Station Pré.
En effet, quel périple. Et donc, vous avez atterri chez Jean-Baptiste Guégan à Morne-la-Croquette.
Si, señorita, c'est mon amigos. On répète notre duo qui célèbre nos tournées sur les parkings des supermarchés. Tu veux l'écouter, la radée?
Et comment?
Un, dos, tres, musica. Nous étions jeunes et larges d'épaule.
Sosie joyeux, insolent et drôle. On attendait que Casto nous frôle.
Sur la route encore, encore.
Sur la route encore, encore.
Au petit jour, on quittait Chausseland.
J'en ai fini de la galerie marchande. Pas un Pékin, on avait les glands.
Sur la route encore, encore.
Sur la route encore, encore. Oui, sur la route encore, encore.
Jean-Baptiste Béguégan.
Oui,
est très très bien dans le répertoire.
Oui. Il est bien partout, vous le oui.
Et on salue notre ami Bernard Lavillier qui nous écoute.
Ah
matin.
Bah oui, alors lui. Ah,
et alors voilà, on l'embrasse.
Affection et respect. Hein,
exactement.
Oh là là. Il aura aimé la version.
Oui, je n'en doute pas. Donc, écoutez, vous pouvez la retrouver cette version sur le site rtl.fr. Et nous avons rendez-vous demain matin avec grand plaisir. Merci à toute l'équipe.
À demain.
Merci.
Quel bon moment, à demain. Cyril Lignac est avec nous dans un instant.
RTL. Toujours avec vous. RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Les auditeurs vous posent des questions sur rtl.fr/participer. Et alors là, aujourd'hui, c'est Françoise. Elle vous tutoie. J'ai gardé des coquilles vides de Saint-Jacques datant des fêtes. Donc j'ai gardé des coquilles vides de Saint-Jacques datant des fêtes. Je trouve ça dommage de ne pas les utiliser. Tu peux pas m'aider à préparer quelque chose que je servirai dedans ?
Mais bien sûr. Au lieu de s'en servir comme un cendrier, souvent les coquilles Saint-Jacques, on s'en sert comme cendrier.
Oui.
Eh bien, les coquilles Saint-Jacques, c'est génial. Parce que on peut en faire plein de choses. Ah. La première, si on a encore les Saint-Jacques, ben on fait avec la noix. Sinon, on va acheter d'autres noix. Et donc, on fait un petit tartare ou un petit carpaccio. Mmh. Moi, j'aime bien le mettre dans la coquille Saint-Jacques. Comme ça, on a vraiment le produit. Là, c'est la pleine saison des clémentines corses. Mmh. Donc, on fait une vinaigrette avec un jus de clémentine, huile d'olive, piment d'Espelette. On peut corser avec un petit peu de jus de citron si on veut encore un peu plus d'acidulé. Et on met les coquilles Saint-Jacques dans la noix, dans la coquille, la bien noix sûr. Dans la coquille. Moi, j'aime bien les carpaccio tièdes. Donc, je repasse un petit peu au four, juste pour tiédir la coquille Saint-Jacques, pour pas qu'elle soit trop froide. En été, on aime manger les carpaccio froids, mais en hiver, on aime bien, on peut les avoir juste tièdes à température. Et donc, la petite vinaigrette, des petits croutons, des petits morceaux de clémentine, c'est super frais, un petit peu d'aneth, c'est délicieux.
J'aurais peut-être risqué un petit peu de fenouil, mais ce serait une autre
on
fois.
On peut aussi. Voilà. On peut mettre un petit peu de fenouil, alors, on peut. Oui, oui.
Plat chaud éventuellement pour
alors,
le poisson.
Là, vous connaissez ça, les coquilles à l'époque. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait les coquilles Saint-Jacques, mais avec du poisson.
Voilà.
Elle appelait ça les coquilles de poisson.
Voilà.
C'est un plat vraiment classique de la cuisine française, qui a été pris par les industriels, bien entendu. Et aujourd'hui, on retrouve ces coquilles Saint-Jacques, qu'on appelle les coquilles de poisson, les coquilles de la mer, avec du cabillaud, des morceaux de saumon dedans, de la béchamel, congelées, que vous achetez et que vous mettez juste au four. Ben moi, je vous propose de les faire, parce que ça, c'est génial, et c'est pas grand-chose. On achète du poisson blanc, donc on fait ce qu'on veut. Du lieu, du cabillaud, on peut mettre du saumon, on peut twister avec des coquilles Saint-Jacques, avec des crevettes.
Des crevettes.
Et on fait d'abord une fondue de poireaux, donc les poireaux émincés, avec du beurre demi-sel, on fait cuire, on ajoute une lichette de crème.
Toujours une petite lichette de crème.
Je vous ai vu, j'ai dit, l'enlever, je pas dit. Alors on n'est pas obligé. Hein.
Non, mais bon, j'adore quand il y a de la crème.
Alors, crème ou pas crème, on peut rajouter un petit peu de vin jaune, toujours les poireaux, ça donne un petit goût, du vin blanc d'ailleurs. On laisse mijoter, on coupe des champignons de Paris, on les met sur notre petite fondue. Les champignons de Paris, ils cuisent vraiment délicatement. Il faut les garder un petit peu croquants, parce que sinon tout est mou, le poisson mou, les poires mou. Donc on les garde un petit peu croquants. À côté, on fait une béchamel. On prépare un fumet de poisson. Alors, soit on achète des arêtes de poisson, on met de l'eau, des arêtes de poisson, des légumes, ça nous fait un bouillon. Sinon, on met un petit bouillon cube, ça nous donne ce petit bouillon de poisson. À côté, on fait une béchamel, beurre, farine. Quand on remue, ça nous fait le roux. Et là, au lieu de mouiller avec du lait ou de la crème, on ajoute le fumet de poisson. Donc, on va avoir une béchamel, un goût un peu poissonneux et qui va vraiment s'accorder avec le reste. Ensuite, on dépose notre petit poisson qu'on a cuit, juste avant, à la poêle, un peu bien croustillant. On dépose, on presse un petit peu de jus de citron. Auparavant, on a mis la fondue de poireaux. On met la petite béchamel dessus, de la chapelure, et on gratine au four. Purée, qu'est-ce que c'est bon.
Vous avez l'œil qui
s'en est fait la semaine dernière. Non, mais c'est incroyable.
Merci
mais
beaucoup.
Vrai.
Ben voilà, incroyable mais vrai. Il est